Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quand une des personnes que tu estimes le plus au monde te dit « je pense que tu peux le faire », bah tu te dis « ok, je pense que je peux le faire ». Et puis bah, en 48 heures, on se dit « vas-y, on écrit un truc ». On voulait appeler ça « et tout le monde s'en fout », c'est sûr. On s'est mis dans sa cave pour pas faire chier ses colocs. On s'est dit « mais qu'est-ce qu'un mec foutrait dans une cave ?» On va dire « ah vas-y, c'est un geek ». Ok, c'est un geek. Qu'est-ce qui nous fait rire de parler condescendance ? Bon, bah on a qu'à faire ça. Puis voilà, en 48 heures, on a écrit. De quoi on parle ? Bah, c'est quoi le sujet qui nous anime le plus ? Bah, c'est la place des femmes. C'est le truc qui nous fait le plus rire jaune, tu vois, sur lequel on a le plus de trucs à dire. Vraiment, comme des feignants, tu vois. Vas-y, on vient, on fait un truc simple, quoi. Puis voilà, on a écrit, tout le monde s'en fout. On s'est mis dans sa cave, on l'a tourné.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, et vous ? Faut que je parle à peu près à un niveau où je vais parler.
Bon, je vais ajuster au fil de l'eau, hein, tu vois.
On est bien, quoi. Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va bien ?
Ça fait longtemps, hein ?
Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bah déjà, avant le confinement, enfin, oui.
Non, mais même, j'aime bien le rappeler parce que quand même, toi t'es là depuis le tout début, quoi.
Oh, le tout début !
Le début de mon aventure YouTube-esque.
Mais c'était génial, c'est toujours génial. Mais en fait, non, mais c'est vrai, quand vous avez commencé à sortir et tout le monde s'en fout, je me suis dit...
Mais même avant ça.
Attends, c'était quand avant ? Alors dis-moi. Avant ça, oula, peut-être que j'ai oublié.
Je faisais un truc avec un autre pote qui s'appelait Le jour où j'ai inventé.
Ah mais oui !
Et un jour, je vois sur Mademoiselle petit article, alors qu'on avait vraiment fait ça à l'arrache dans mon appart.
Ouais.
On avait 3000 vues, on était super contents, tu vois. Et t'avais déjà repéré ça, quoi.
Donc, bah oui, c'était trop bien le jour où j'ai inventé. c'était un super conseil. Vous n'avez pas continué finalement ?
Non, bah parce que voilà, la vie, quoi, tu vois.
Oui.
Puis moi, en fait, il y a eu Tout le monde s'en fout qui est tombé, et c'est vrai que ça a un peu chamboulé tout, quoi.
Oui, j'imagine. Bon, on va parler un peu de ton parcours.
Oui.
Que tu me racontes un petit peu d'où tu viens, etc., etc. Ça va être intéressant. Mais avant ça, je voudrais te ressortir une phrase que tu as dit dans une interview qui m'a vachement marqué.
Ok.
Donc on va en reparler, mais t'as beaucoup travaillé sur toi. Ok. T'as vraiment ce truc de j'ai taffé.
Ouais.
Sur moi.
C'est pas fini en plus.
C'est bon. Oui, c'est jamais fini.
C'est
hein.
Jamais fini.
Et en fait, dans une interview, je t'ai entendu dire, ma thérapeute, elle me dit souvent, il faut que tu t'ouvres le cœur, tu vois. Parce que, alors moi, je me suis sans doute dit, ok, Axel, il est dans la tête, quoi, tu vois, il est dans le mental.
C'est exactement ça. C'est un rempart, le mental. Alors c'est vraiment le sujet de mon travail perso du moment. Enfin, en fait, ça l'est depuis toujours, mais je comprends depuis pas si longtemps que ça,
ouais.
que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est ouvrir le cœur. Et alors cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le cœur, quoi, tu vois ? Et ouais, moi j'ai beaucoup nourri le mental parce que par peur, je pense. J'ai longtemps, quand j'étais ado, j'ai vraiment cru que j'étais bête. Mais vraiment, j'avais cette conviction et en plus, du coup, je m'entourais de gens que je considérais plus intelligents que moi. Enfin, je m'entourais. Je cherchais ça, en fait.
Ouais.
Le travail personnel, le développement personnel, comme on dit, c'est un peu un gros mot maintenant, mais c'est vraiment ça qui m'a permis de faire le tri là-dedans et comprendre que j'étais pas bête. Ça a été une grosse révélation. Mais ça m'a pris 30 ans, quoi. C'est long, hein. 30 ans, c'est long.
Mais ça veut dire quoi, comprendre que t'étais pas bête?
En fait, je me sentais en décalage. J'ai toujours moi un des sujets qui me passionne, c'est la masculinité. Ce que c'est que la masculinité, et notamment la masculinité toxique. Et à force de travailler sur moi, ce qui vient beaucoup, c'est la gratitude. Tu vois, en thérapie, souvent, on te dit, même en dev perso, on te dit, faut bosser sur la gratitude. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire la gratitude ? Et plus j'avance, et plus je me rends compte que j'ai de la gratitude envers mon environnement familial, parce que il était vraiment en dehors de la masculinité toxique. J'ai vraiment pas eu ça du tout, que ce soit mon père ou ma mère, tu vois, il y avait vraiment aucune injonction. Il y avait d'autres trucs, il y avait d'autres problématiques.
Oui, il y en a toujours.
Il y en a toujours, mais ça non, tu vois, ça non. Même jusqu'à parfois, presque pas un extrême inverse, mais je dis souvent, quand j'étais petit, on me prenait pour une petite fille. Parce que c'est cause conséquence, on sait jamais, mais c'est vrai que ma mère m'habillait beaucoup en rose. Il y a plein de photos de moi habillées en rose, donc dans cette société ça veut dire quelque chose, tu vois. J'avais les cheveux frisés, tout ça, et ma mère m'habillait avec des petits nœuds dorés, des machins, alors elle m'a toujours dit qu'elle voulait une fille avant de m'avoir.
T'es l'aîné, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Ouais, je suis le premier, et du coup jusqu'à mes 7-8 ans, j'étais quand même dans une société patriarcale et sexiste, donc quand on me prenait pour une fille, ça me vexait. Mais en même temps, il y avait un truc au fond de moi qui me disait « Ouais, mais moi, je m'en fous, tu vois. » Mais j'ai un souvenir, j'étais à la poste. On attendait ma mère avec ma petite sœur. Et il y a un mec qui est venu nous parler. Déjà, ça, je trouve ça un peu chelou en me rappelant qu'est-ce qu'il voulait, ce mec. Et il nous a dit « Ah, et vous êtes deux sœurs ?» J'ai fait « Merde ». Je sais pas, ce souvenir, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, ouais. Mais j'ai des trucs clés, des moments clés comme ça, et je me souviens être allé voir ma mère et dire « Maman, je vais aller chez le coiffeur ».
Ah ouais.
Et c'était compliqué d'avoir cette hypersensibilité, parce que bon, pareil, j'ai lu beaucoup sur l'hypersensibilité, c'est bon, maintenant je commence à accepter que je le suis sûrement. Et je pleurais beaucoup quand j'étais petit aussi, ouais. Ça, je pleurais tout le temps. Le moindre choc, même pas choc, le moindre changement émotionnel, je me mettais à pleurer. Mon père me disait souvent « Pleure tout de suite, on s'en va dans une heure ». Parce que dès qu'on quittait un endroit, j'étais triste et je pleurais, tu vois. On allait chez ma grand-mère, on partait, je pleurais. On allait à la boulangerie, on partait, je pleurais. Enfin, c'était compliqué.
À chaque fois, des deuils.
Ouais, c'est... Ah, putain, j'avais jamais vu comme ça. Effectivement, j'avais vu des espèces de mini-deuils en permanence, ouais. Quoi. Et donc ça, cette propension aux pleurs, je l'ai eue jusque très très tard, jusqu'au collège. Et pareil, j'ai des moments clés comme ça, des souvenirs. C'était en sport. On faisait, je sais plus, de la gym, enfin un truc, je ne sais plus. Et donc j'avais 13 ans, un truc comme ça.
Ouais.
On était en sport et je sais plus ce qui se passe, je fais un mouvement et quelqu'un me met un coup de pied, mais rien du tout, tu vois, et je me mets à pleurer. Donc le prof avait l'habitude, tout ça, il me dit « Bon, bah, Axel, c'est pas grave », et puis je pleurais, tu vois, puis il me dit « Bon, bah, va à l'infirmerie », et j'avais rien du tout, je me rappelle, j'avais rien du tout. Et je reviens et 5 minutes après, quelqu'un d'autre me met un autre coup et je me remets à pleurer. Et là, c'est mon prof m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais il m'a dit un truc et ça m'a fait un électrochoc. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer.
Complètement. T'as plus pleuré.
J'ai plus pleuré. En tout cas, j'ai réfréné ces espèces, oui. de...
Plutôt que les laisser aller,
ouais.
Tu disais...
Je me suis dit, ok, c'est pas normal. Je juge pas ça.
Je me souviens plus de cette phrase. C'est fabuleux.
Écoute, c'est marrant parce que j'ai déjà raconté cette anecdote une fois en interview et il me semble qu'à ce moment-là, je me rappelais de la phrase et là, okay. Elle m'est sortie de la tête, tu vois. Et tu vois, là, en y repensant, je juge pas ça parce qu'au final, ça m'a... C'était handicapant socialement, en fait, d'être comme ça tout le temps dans l'hypersensibilité. Surtout que je suis né dans une petite ville près de la Belgique, en Champagne-Ardenne, où forcément, j'étais entouré de beaucoup de garçons toxiques. Moi, je m'entendais pas avec les mecs. Et j'avais peur des filles en tant qu'hétéro, tu vois, adolescent, j'avais hyper peur des filles, mais je ne comprenais pas les garçons, donc j'étais hyper seul. Et donc cette phrase là et ce moment là, ça a fait quelque chose. Okay. Je ne le jugerais pas de positif ou de négatif, parce que ça a été, bah toi, c'est que c'est un des moments qui m'ont marqué, donc pareil, je vais être dans la gratitude, je vais remercier ça, tu vois.
Mais tu vois, j'avais l'impression en t'entendant aussi parler de, enfin tu vois, de ta thérapeute, parce que ma thérapeute m'a dit exactement la même chose, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que il y a ce truc où nous les mecs, on nous apprend à être dans la tête, tu vois, être dans le mental. Et quand je vois, parce que bon, j'ai été entouré beaucoup de femmes autour de moi et tout, et en fait, elles ont un rapport à leur corps qui est tellement plus développé. Alors pour plein de raisons, hein, parce que déjà, bah, elles ont leurs règles assez tôt dans leur vie, et où tu sens vraiment qu'elles ont cette habitude de s'écouter leur corps. Là où les mecs, on sait pas faire, quoi, tu vois. Et si les sportifs de haut niveau, j'imagine, mais en plus, c'est un peu en mode performance.
Oui,
tu
mais
vois.
C'est ça. Je pense que les sportifs de haut niveau, c'est pas vraiment du corps, c'est du mental aussi.
Bah, ils ont forcément les deux, tu vois. Bon. Enfin, pour en avoir interviewé quelques-uns, ils ont un peu ce truc de, ok, ils savent quand est-ce qu'ils sont blessés, etc., okay, okay, etc. Là où les mecs, bah, déjà, ils prennent pas soin de leur corps d'une manière générale. Ils prennent pas soin d'eux quand ils sont malades ou quand ils ont des trucs. Faut vraiment qu'on leur coupe une jambe, qu'ils perdent une jambe pour qu'ils aillent faire, bon, je vais peut-être aller me faire soigner. Et ça, je sais pas ce que t'avais à en dire sur le sujet aussi, tu vois.
Bah, il y a un paradoxe aussi, effectivement, je suis en train de lire le dernier Mona Chollet, là. Ouais. Justement, ce que je disais dans le métro, c'était ça, c'est les injonctions qu'on...
Attends, Mona Chollet,
Réinventer l'amour. Et qui avait écrit Toute sorcière, toutes les sorcières. Et là, elle dit...
En gros, ce qu'elle fait dans ce bouquin, c'est qu'elle remet en contexte, elle remet en cause et elle remet en question l'amour hétérosexuel.
Elle explique comment, en gros, la société patriarcale a détruit, a fait du mal, en tout cas, aux relations hétérosexuelles. Alors, elle parle principalement des relations hétéro, parce qu'elle est hétéro, elle dit, voilà, moi, je ne vais pas parler des sujets que je ne maîtrise pas. Et elle parle aussi, moi, c'est ça qui me fait du bien dans ce bouquin, c'est qu'elle te dit au début, je ne vais pas parler de polyamour, de tout ça, parce que je ne maîtrise pas ce sujet, et ce n'est pas ça le sujet là, que je veux aborder. Donc, et ça fait du bien aussi, parce qu'on est quand même dans une société où les injonctions, justement, à réinventer l'amour,
ouais,
et donc réinventer les relations, et réinventer le couple, ça, c'est fatigant.
C'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup. Mais c'est un autre sujet dont on peut revenir après. C'est okay. Un truc qui m'intéresse beaucoup, ça aussi. Mais... Et donc, elle parle des injonctions que les femmes ont depuis toujours au fait de prendre soin. Et donc, tu disais, elles sont plus, effectivement, sujettes au fait de prendre soin de leur corps. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, le paradoxe, c'est que leur corps, il est tabou. On est dans une société où... donc, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais c'est intéressant de voir... Est-ce que c'est une forme de réappropriation de son corps? Parce qu'on te dit que ton corps est sale, du coup, bah, tu vas en prendre beaucoup plus soin. Et le corps de l'homme, du coup, est... C'est quoi? Il n'y a pas d'injonction sur le corps... Enfin, il y a beaucoup moins d'injonction sur le corps de l'homme, tu vois, finalement.
Ah oui, bien sûr, les mecs, ils peuvent... Alors, après, pour moi, t'as vraiment ce truc de... Si t'es pas... Alors, si, parce que tu vois, il y a tous ces trucs autour de... Si t'es pas musclé, si t'es pas machin, si
oui,
t'es pas...
Oui, c'est vrai.
Tu vois...
Et en même temps, il y a aussi eu très très vite... les poignées d'amour chez les hommes, c'est mignon.
Exactement.
Tu vois, on est beaucoup
à l'opposé.
Plus... on est beaucoup plus coulant avec les mecs. Il y a moins d'injonctions.
Coulant, poignée d'amour.
Absolument. Je suis humoriste.
Mais alors toi, justement, en tant qu'acteur, en tant que comédien, j'imagine que le rapport à ton image, il est hyper important. Et le rapport à ton corps aussi, tu vois. Comment t'as l'impression d'avoir grandi, d'avoir travaillé là-dessus aussi, parce que ça doit être un truc.
Bah, alors pareil, je sais pas si c'est un paradoxe, mais moi j'avais pas du tout prévu d'être comédien genre dans ma vie. Donc c'est plutôt, je pense, dans l'autre sens. C'est parce que moi j'étais toujours été très complexé. Je suis un ancien gros en fait. Quand j'étais petit, j'étais pas dans l'obésité, mais j'avais des rondeurs et ça m'a, en tout cas, ça m'a marqué assez que ça m'ait marqué, tu
T'étais
vois.
On te balançait des cailloux dans la classe?
Pas à ce point-là. On me balançait des cailloux parce que je pleurais.
Oui.
Mais pas pour mon physique. C'était plutôt moi, par rapport à moi j'étais pas le petit gros c'était mon image de moi et de mes parents aussi, pareil, dans les moments clés, dans mes souvenirs, ma mère m'a dit un truc une fois, et sur ça, elle m'a dit, je lui en veux pas, hein, mais c'est quand même un peu violent, mais elle m'a dit, tu devrais te regarder dans un miroir avant de manger une glace. Ouais, c'est chaud.
Ah oui.
C'est chaud. Pareil, je juge pas ça, parce qu'à partir de là, j'ai pris conscience et j'ai commencé à faire plus gaffe. Parce que j'avais un rapport un peu, je l'ai toujours d'ailleurs, mais un rapport un peu addictif au sucre.
Comme
compensation de plein de choses,
oui.
Mais bon, tu vois... Et donc, je fais des milliards de cheminements dans ma tête.
Vas-y,
mais,
vas-y.
Mais oui, mon rapport au corps par rapport. Oui, j'ai toujours été complexé. En tout cas, oui, j'ai toujours été complexé. J'avais un rapport à mon image dans le miroir pas très saine. Je passais mon temps à vérifier mon reflet dans les voitures, tout partout, juste pour checker, tu vois. Après avoir taillé sur moi, je sais exactement d'où ça vient. Je connais toute la nomenclature, tu vois, manque de reconnaissance, besoin d'être vu, etc., etc. Comme beaucoup de gens, tu vois. Mais moi, j'avais vraiment un truc abyssal de besoin d'être vu.
On va en reparler, mais tu te lances sur scène là. Enfin, c'est pas anodin de monter sur scène et de parler devant autant de gens. Il y a un moment donné où ça vient bien de quelque part.
Ben, je le dis souvent, c'est que moi, mon puits abyssal de manque de reconnaissance, je réussis à en faire quelque chose de positif et je l'ai poussé vraiment au max pour que des millions de personnes me regardent. Bon, après, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, on n'en sait rien. Après, l'idée,
c'est ce que t'en fais.
C'est ce que j'en fais, voilà. C'est ce que j'en fais, mais faut garder un œil dessus, tu vois, parce que tu peux vite.
Puis le faire en conscience. Je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Il y a un peu ce truc
complètement.
Ok,
ouais.
je sais où je suis, quoi.
Ouais. En tout cas, c'est bien de temps en temps d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute et qui te disent, t'en es là. Hein. Je fais, ah oui, d'accord. Tiens, prends mon argent.
Mais donc ouais, tu disais que t'avais un peu un rapport un peu compliqué.
Et oui, et du coup, ouais, un peu un rapport compliqué à mon physique de je sais pas. Des fois je m'aime bien, des fois je m'aime pas. Et quand je m'aime bien, l'extérieur me montre pas que j'ai raison, donc c'est que j'ai tort, donc je m'aime pas, etc., etc.
Ok. Encore aujourd'hui ?
Ça va, non, ça va mieux.
Ok.
Ça va mieux. Tu sais, dans l'estime de soi, en coaching, on dit qu'il y a trois paramètres de l'estime de soi. C'est l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. L'amour de soi, c'est en gros respecter tes valeurs, c'est-à-dire faire des choses qui respectent tes propres valeurs. La confiance en soi, c'est faire des trucs que tu sais que tu peux faire, en gros, c'est pas te mettre la barre trop haut, tu vois, pour pas te culpabiliser. Et l'image de soi, c'est agir et essayer de paraître comme la personne que tu aimerais devenir. Et moi, pour le coup, j'ai mis beaucoup, sans le savoir tout ça, j'ai mis beaucoup de billes là-dedans, dans le fait de okay, à qui j'ai envie de ressembler. Toujours parce que cette névrose de besoin d'être vue, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à transformer mon physique pour essayer de ressembler, de paraître, tu vois. C'est là-dessus que je travaille en ce moment, c'est que passer du paraître à l'être. Pareil, c'est des grandes phrases qui veulent rien dire, tu vois, mais c'est vraiment ça que je dois travailler. Mon physique, c'était un sujet. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai réussi à, en termes d'image de moi, à être là où j'avais envie d'être. Je suis encore un peu comme tout le monde, tu vois, des trucs. Là, l'hiver arrive, je mange des trucs, j'ai un petit bidon, bref, tu vois, quoi. Mais ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et le fait de devenir comédien. Ça m'a beaucoup aidé. C'est toujours pareil. Je sais pas quelle est la cause et quelle est la conséquence, mais.
Le fou, la poule.
Ouais, c'est exactement ça. Parce que moi, en plus, je suis monteur à la base, donc c'est moi qui monte toutes les vidéos. Donc je passe des heures à me regarder. Et je me dis des fois, heureusement que je sais pas à quel moment ça s'est passé, mais c'est facile pour moi, ça. Et en plus, mon réalisateur, qui est mon meilleur pote, sait très bien me filmer. Ça, c'est ouf. Des fois je me vois en interview dans d'autres trucs, je me dis ah ouais, il y a vraiment que Fabrice qui sait me filmer, tu vois. Après c'est normal, ça fait 5 ans qu'on fait que ça, quoi, tu vois.
C'est tellement intéressant, je me permets, mais vraiment de dire que tu, pour aussi apprivoiser ton image, tu t'es monté.
Oui.
Non mais tu vois, j'ai commencé à faire des podcasts, j'aimais pas ma voix. Et en fait, j'ai commencé à faire des podcasts. Aujourd'hui, ma voix ça va, mais en les montant, tu finis par apprivoiser à la fois ta voix et ton image, j'imagine, quoi.
Mais ça, c'est un vrai exercice à faire, hein, de se filmer. Je me dis, les gens qui ont du mal avec leur image, filmez-vous et regardez-vous en boucle, regardez-vous.
Filmez-vous
sous plusieurs angles pour vous faire une image de ce que vous. En plus, est-ce que l'image est vraiment ce qu'on renvoie? C'est toujours pareil.
Non, en plus, pas du tout.
Mais non, ça, c'est vrai que ça a été fou. Et donc, la clé pour tout ça, pour moi, c'est toujours pareil, c'est l'humour. L'humour et surtout l'autodérision. Et le fait d'être capable de rire. Avec soi et pas de soi. C'est subtil, tu vois, mais le fait de. Moi, quand je me regarde, des fois, je me trouve moche, mais ça va, tu vois.
Parce que tu te caches un peu, tu vois, dans ton perso de, et tout le monde s'en fout. T'as ta capuche, t'as tes lunettes, t'as pas la même voix, etc. Quoi.
Oui, alors c'est effectivement, c'est là où il y a la nuance. Quand je vous dis filmez-vous et tout, c'est vrai que en fait, t'as raison. C'est que moi, je joue un personnage. Je joue un personnage donc qui est bigger than life, comme on dit. Et donc, j'accentue tous mes traits et tout. J'en fais des caisses, quoi. Mais ça aide, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien.
Ça t'a fait du bien.
Ah ouais, grave.
Ok. Ouais. D'interpréter ce perso.
Après, comme je dis, toi. Je dis souvent, j'avais jamais prévu d'être comédien un jour dans ma vie. C'est vrai, j'avais pas vraiment aucune. J'aurais pas eu de regret si sur mon lit de mort j'avais pas fait. Mais je m'étais toujours dit oui, pourquoi pas, parce que je fais le con depuis toujours. C'est-à-dire, c'est mon. En fait, être comédien, c'est mon masque social principal, notamment l'humour. Ça m'a sauvé la vie. Vraiment, ça m'a socialement même. Ça m'a sauvé la vie. Il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est l'humour et les femmes. Je raconte souvent cette anecdote.
J'aime bien parce que ça fait au moins 5 fois que tu t'autocites depuis le début de l'interview.
Oh merde.
Je dis souvent, je raconte souvent.
Non, mais en fait, c'est parce que je rabâche souvent les mêmes choses en interview.
Désolé, je t'amène pas sur des trucs.
Non, mais en fait, moi, c'est cool parce que moi, ça me fait toujours retravailler et voir où j'en suis, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que j'ai peur aussi de radoter, tu vois, et de pas dire des trucs intéressants. Donc il y a des trucs, je sais qu'il y a des trucs que je raconte qui des fois sont intéressants, donc je les répète, tu vois. C'est moyen d'être en sécurité.
Mais lâche-toi, tout va bien.
Oui.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non mais donc toi, tu disais que tu racontais souvent.
Ouais.
Il y avait deux trucs qui t'avaient sauvé. Mais en fait, si tu veux bien, on va y revenir. Mais j'aimerais bien, parce que tu m'as parlé rapidement de ton enfance, mais en vrai, l'interview, c'est vraiment pour parler de ton parcours. Donc, je t'ai amené là. On a fait 20 minutes de digression, mais on s'en bat les couilles. On fait ça. Donc, toi, tu m'as parlé rapidement de ton enfance et tu me disais, OK, donc, t'étais un peu le petit joufflu qui pleurait tout le temps, etc., au collège.
Oui.
C'est quoi? En fait, il est où le déclic? Parce que tu disais, moi, j'ai jamais voulu devenir comédien. Mais alors, c'était quoi tes passions quand t'étais gamin? J'espère qu'on t'a jamais parlé de ça. Hein.
Non, pas trop. Mes passions quand j'étais gamin. Alors, pareil, dans les souvenirs clés. Donc, mon père, c'est un artiste. Il fait de la peinture et de la sculpture. Enfin, voilà, c'est vraiment un artiste. Dans ma famille, c'est un peu pour caricaturer, c'est soit tu fais de la politique, soit tu fais de l'art. En tout cas, il y a beaucoup dans mes cousins cousines, on a un peu ces deux,
c'est marrant,
ces deux versants. Et parce que je suis bien d'une famille très politisée, de gauche, du côté de mon père. Et donc,
dans quel sens? Qu'est-ce qui...
Ah bah ils sont tous, cégétistes, à des postes assez hauts dans la région, tout ça.
Communistes, etc.
Ouais, communistes. Issu mon grand-père, j'ai pas connu mon grand-père, mais c'était un communiste, consommis communiste. Et
c'est marrant ça, l'aspect cégétiste et en même temps artiste peintre. Tu vois, pour moi, il y a un truc qui. Tu sais, pour moi, les CGTI, enfin, tu vois, les syndicalistes, etc., mais c'est sans doute un truc que je projette. Mmh, mmh. C'est souvent des ouvriers, enfin, tu vois, c'est plutôt la classe ouvrière, etc., qui attend.
Non, c'est vrai.
Et en fait, alors après, je sais pas pour mettre les gens dans des cases, mais c'est vrai que l'ouverture à la peinture, etc., c'est pas forcément, tu vois, je trouve qu'il y a une dichotomie hyper intéressante.
Ouais, que pour moi, après, moi, vraiment, j'ai pas de culture de politique parce que, de par le fait que j'étais dans une famille hyper politisée, ça m'a fait peur. Et je comprenais pas, et du coup, j'ai rejeté ça complètement.
Ah, okay.
Et ça m'intéressait pas, et je trouvais ça pas fun en fait, tu vois, tout simplement.
C'est vrai que c'est.
C'est pas le truc.
Bah, il y en a qui trouvent ça fun.
Oui, non, mais il y en a qui le rendent fun en tout cas.
La bagarre et tout.
Donc, du coup, mon père avait son atelier, il faisait de la peinture, tout ça, et puis il a essayé de me. Il a essayé de me forcer, entre guillemets, un peu à marcher dans ses pas. J'ai un souvenir de. Noël à son boulot, il était éducateur spé, il s'occupait d'enfants autistes et trisomiques. Et Noël du boulot des parents, tu vois, normal. Et puis il dit, voilà, tous les enfants vont faire des dessins, des peintures et on va les accrocher dans la salle, tout ça. Et il me dit, vas-y, fais un truc. Et à l'époque, quel âge j'avais? J'étais petit, ma sœur était pas née, je crois, donc j'étais vraiment petit, j'avais 5-6 ans. Et en gros, je me souviens qu'il me pousse à faire le truc, et je dessine un Père Noël, comme un enfant de 5 ans, tu vois. Et là, j'ai un souvenir hyper violent aussi de... j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de le faire. Mais je me forçais parce que c'est mon père qui me le demandait, donc il y avait la reconnaissance du père, tout ça, machin. Et je fais un truc, je sais plus ce que je fais, et il me souvient, il me dit, mais il s'énerve, il s'est mis en colère, et il m'a dit, mais t'es... Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais un truc genre, mais t'as pas d'imagination, regarde, et il a pris un, tu sais, les couteaux à peinture, et il a commencé à peindre au couteau, en montrant ce que c'était. Donc je pense que c'était, il voulait pas me traumatiser, tu vois.
Ouais, il voulait te montrer un peu, quoi.
Mais j'ai un souvenir violent de ça, de, ah merde, je suis pas comme mon père voudrait.
Putain. J'imagine qu'en plus pour lui il y avait un côté tiens je vais te transmettre ce que je sais, etc. Enfin c'est terrible.
En plus mon père c'est vraiment quelqu'un de très calme, de très posé, avec des accès de colère de temps en temps. Et là c'en a été un. Parce que moi c'est comme ça que je l'ai reçu, tu vois.
Mais je comprends mieux qu'il ait été aussi ouvert aussi à tes larmes, etc. Parce que s'il avait déjà cet aspect artiste, etc. Ah, il savait qu'il fallait laisser sortir les émotions. Mais c'est
complètement.
C'est canon, quoi.
Puis mon père c'était un genre de thérapeute, dans le sens où il s'occupait d'enfants qui avaient des graves problèmes, tu vois, autistes et trisomiques. Donc il avait sans avoir
de formation.
Alors, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je connais pas trop son parcours finalement, tu vois, ça m'en rend compte. Là, c'est un truc que j'ai pas trop.
Vous en avez jamais parlé?
Non, pas vraiment, pas de sa formation. Je sais qu'il avait un BTS de chaudronnier quand il a rencontré ma mère, parce que ça le raconte souvent. Et après, il a fait des études d'EduxP. Mais, ce que j'ai appris il y a pas longtemps, ça c'est ouf. Dans mon parcours à moi, c'est ouf. Et dans mon histoire, et dans les rebonds qu'il y a eu dans mon histoire et la sienne, le meilleur pote de mon père, il est comédien. Depuis toujours, je le voyais de temps en temps, il venait à la maison, c'est François, tu vois, et puis c'était le pote comédien de mon père. Et il n'y a pas si longtemps, je crois que j'avais déjà commencé, tout le monde s'en fout, il vient chez mes parents, j'étais là, et il me raconte, tu sais, avec ton père, à la base, on avait prévu d'être comédiens tous les deux, et on devait prendre un appart en coloc et se lancer dans notre carrière de comédien tous les deux, quoi, tu vois. Et là, je fais « What ?» Je ne savais pas ça. Il y avait une photo de lui et mon père en espèce de combinaison moulante où c'était sur une scène dans une espèce de position bizarre. On aurait dit de la danse contemporaine, mais ils m'ont dit voilà, ça c'était ce qu'on voulait faire, des trucs un peu chelous. Et donc j'apprends ça, que mon père voulait être comédien.
Mais c'était quand? Quelques années?
Que j'ai appris ça, ouais, je te dis, c'était, je pense, au tout début des Tout le monde s'en fout.
Ok.
Et donc l'anecdote, c'est ils vont pour rentrer dans leur appart en coloc tous les deux. Et ils vont en boîte pour faire la teuf. Là, ils tombent sur deux meufs. Puis ils passent la soirée avec. Et là, mon père va chez la meuf, qui était ma mère. Et il n'est jamais reparti de chez ma mère. Et il n'a jamais emménagé avec son pote. Il n'a jamais tenté sa carrière de comédien.
Waouh.
Ouais, j'ai fait pareil. J'ai fait un bon. et en plus, son pote, lui, a réussi. Il a vécu en tant que comédien toute sa vie, tu vois.
Les carrefours de vie, quoi.
Ouais, c'est ouf, c'est complètement ouf. Et
tu as déjà demandé pourquoi il avait renoncé
En fait, il a rencontré ma mère et il est tombé amoureux. Enfin, ils sont tombés amoureux et puis ça a été une histoire d'amour, en fait. Tu vois, c'était un peu la roue l'amour, tu vois. Et puis après, il y a eu moi, pas très longtemps après. Et il m'a toujours dit, mon père, je regrette pas du tout. Et je regrette pas du tout. Je suis super content d'avoir fait des enfants. C'est ce que je voulais. Et en plus, il a toujours trouvé de la place pour l'art dans sa vie. Il a toujours réussi à exprimer son art. C'était soit à travers la peinture. Ensuite, il a fait. Je suis de Charleville-Mézières, donc il a fait des. C'est la ville des marionnettes.
Ouais.
Donc il a fait des marionnettes beaucoup. Il a fait du théâtre. Ça a été un des premiers. En tout cas, dans la région, à inclure le théâtre avec les enfants handicapés.
Ok.
Et puis quand il n'y avait plus ça, il m'a dit le moyen d'expression de mon art, ça a été pendant longtemps la cuisine, parce qu'il cuisine de ouf et tout. Et là, depuis qu'il est à la retraite, il se remet à la peinture, il fait des aquarelles tous les dimanches. Enfin, tu vois, il a toujours trouvé de la place pour s'exprimer sa créativité. Et je sens pas de regret de sa part. Je le sens pas aigri par rapport à tout ça. Mais c'est ouf d'avoir appris ça. Surtout spécifiquement comédien. Moi, j'avais pas prévu non plus de l'être. Enfin, c'est assez drôle, quoi.
Comment tu deviens comédien alors? Parce que c'était justement, je te demandais, c'est quoi ton parcours? Genre lycée, tu fais quoi?
Alors lycée...
Devenir ingénieur.
Non, collège... je te dis, il y a cette espèce de transition où je commence à me dire, vas-y, je vais arrêter de pleurer et je vais essayer d'être plus sociable. Je rencontre un pote, Alex. C'était mon alter ego, Axel et Alex, tu vois. Un mec, je me rappelle plus de notre rencontre, ça me fait chier. Enfin, je lui redemande, parce que lui, il a une mémoire de ouf. Je me rappelle plus du jour où on s'est rencontrés, mais en fait, on est devenus très très potes. Et ce qui nous a reliés, c'est la créativité. On avait envie de faire des trucs, de créer et tout. Et donc, à partir du collège, je commence à écrire avec lui. On écrit des sketchs audio, parce qu'on n'avait pas de caméra à l'époque. Et on écrit des sketchs, on se crée des personnages. Ensuite, plus tard, on se retrouve dans les mêmes classes du collège jusqu'à la seconde. Et on a cette espèce d'euphorie créative. Un jour, au lycée... donc, à l'école, moi, j'y vais, je comprends pas trop. Mes parents me disent de faire S, parce que j'aurais plus de débouchés. Donc, je prends S, option maths. J'avais 3 de moyenne.
La voie facile.
Je comprenais rien, je te jure, je comprenais rien. Et c'est marrant, tu vois, parce que jusqu'à il y a un ou deux mois, je disais, et je m'engueulais même avec ma mère en lui disant, mais moi j'étais nul à l'école, arrête de me... Elle me disait, mais non, t'étais pas nul. Et je lui soutenais que si, vraiment je comprenais rien. J'ai des souvenirs de traumatisme, des salles de physique, chimie, où j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et je lui disais, non, je ne comprenais rien, j'étais mauvais. Elle m'a dit, il faudrait que je te ressorte tes bulletins, mais je vais dire, sors-les. Elle les a jamais ressortis. Et il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Dijon et j'ai retrouvé un couple de potes du lycée. Et je lui dis ça, je lui dis, ouais, ma mère, elle croit que j'étais bon à l'école et tout. Mais elle me dit, mon pote me dit, mais Axel, en fait, t'étais pas mauvais, t'étais moyen, enfin, t'étais ok. C'est juste qu'on était dans des classes avec que des mecs, que des têtes, que des mecs qui ont fini ingénieur, tout ça. Donc, tu vois, c'est ce truc de comparaison que j'avais l'impression d'être mauvais, alors qu'en fait, apparemment, non. Et juste parce que je me comparais aux autres, j'avais l'impression d'être mauvais. Et donc, S option maths, j'obtiens mon bac du premier coup, miracle. Et donc pendant le lycée, ben on écrivait des sketchs et donc une pote nous prête une caméra. On commence à. Moi j'ai commencé la vidéo en refaisant les petites annonces d'Eli.
Ah génial.
C'était notre voilà, on refait les petites annonces, on refaisait celles qui existaient, puis après on a commencé à créer les nôtres, qui est un peu l'ancêtre du youtubeur, tu vois. Eli Semoun, le face cam.
Bien
tu
sûr.
Vois, c'est merci Eli Semoun.
Avec zéro décor, grave. Zéro moyen de
ah,
prod.
Ouais, vraiment.
Juste des persos et du jeu, quoi.
Complètement. Donc on fait ça, on se crée nos propres persos. Oh putain, j'ai des VHS quand même qui valent de l'or. Hein. On faisait des parodies de Love Story aussi.
Ah ouais.
Ouais.
Alors pour les jeunes, Love Story, hein, c'était vraiment le tout début de la télé-réalité. Ouais. C'était avant les anges, etc.
Exactement. Donc on fait ça et puis avec Alex, moi je redouble ma seconde et lui non, il passe en première, donc on se retrouve séparés au niveau de l'école, mais on continue de faire des trucs ensemble. Et lui a son bac un an avant moi et il se barre. Et donc à ce moment-là, oui, je fais beaucoup de 3D aussi. À ce moment-là, je veux devenir infographiste.
Ah, okay.
Et donc je pirate 3D Max et Photoshop tout ça et on refait des personnages de South Park en 3D.
Oh.
Et on se fait des petites scénettes animées en 3D. Pareil, j'ai toujours cette espèce de court-métrage un peu kitsch, tu vois, mais et donc lui part en BTS, infographie à Chaumont, en MANA, mise à niveau en art appliqué. Et bah, je lui dis, bah, vas-y, puis je te rejoins l'année prochaine. Moi, je ne suis pas pris en MANA parce que je n'ai pas du tout le niveau en dessin. Donc, je me retrouve à partir en fac d'art. Parce que voilà, c'est le premier truc que je vois arriver, fac d'art, vas-y, on verra bien. Donc, je fais un an de fac d'art à Amiens. Pendant que lui est en première année de BTS audiovisuel. Et en fac d'art, pareil, je comprends rien. L'histoire de l'art, bon, ça m'intéresse pas trop. Analyser des tableaux, ok. Puis il y a de la sculpture sur argile. Tiens, là, je m'éclate. Je fais des petits personnages et tout. Mais c'est le seul truc, quoi, tu vois.
Ça revient pas à faire de la 3D, quoi.
Ouais, oui, ouais, clairement. Moi, j'étais toujours dans cette idée de je bossais chez Pixar, tu vois, je veux faire des dessins animés.
Ah, tu voulais bosser chez Pixar, c'était vraiment...
Ouais, je voulais vraiment faire de l'animation, ça me passionnait, j'adore le cinéma d'animation, tu vois. Et donc, mais bon, voilà, première année de fac d'art, je dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et donc, fin d'année, Alex, mon pote, se fait chier en BTS, et moi je me fais chier en fac d'art, et je vois que dans ma fac, il y a une section art du cinéma, art de l'écran et de la scène et de l'écran. Donc cinéma, théâtre, quoi. Je lui dis, ah, vas-y, viens, on s'inscrit tous les deux là-dedans, on fait du cinéma, on verra bien, on va être réal, tu vois, on va créer des trucs. Il me dit, ok, machin. Donc je dis à mes parents, bon, je veux changer de voix. Je me rappelle, c'était la panique chez mes parents, c'était l'engueulade et tout, machin. Alors que, bon, bref, c'était pas très grave, tu sais, mais... Et on se retrouve en fac avec mon pote Alex. Et là, pendant 3 ans, bah, c'est... on se fait des potes, on tourne des courts-métrages à fond, tu vois, avec les petites caméras DV à l'époque. Et puis on tourne. J'obtiens ma licence. Et donc, mais qu'est-ce que je fais ? Vas-y, je vais aller à Paris. Parce que j'étais allé à Amiens pour faire ça parce que j'avais peur d'aller à Paris en tant que...
On peut en parler, ça, si ça t'intéresse.
Ouais, j'avais une grosse peur.
Le complexe d'infériorité des gens qui sont pas à Paris.
Ouais.
De monter à Paris.
Exactement ça, tu
de descendre à Paris.
Alors moi, il y avait... C'était pas tant un complexe, c'était vraiment de la peur, moi, parce que j'avais une seule expérience à Paris. J'étais allé au Moulin Rouge avec un groupe d'amis et je m'étais fait piquer mon sac. En tout cas, la con. Et donc, puis le métro, quand tu connais pas, c'est, ouais, c'est hyper flippant et tout. Donc,
le métro parisien, c'est assez...
Ouais. C'est un peu... c'est le dédale, quoi. Tu sais pas ce qui va se passer. Et je me rappelle, je m'étais dit à la fin de la fac, non mais si, je vais me prendre un appart à Amiens près de la gare et j'irai à Paris en train. J'étais parti là-dedans, tu vois. Ma mère m'a dit, non, tu ne fais pas ça. Et donc je suis arrivé à Paris tout seul, du coup, parce que mes potes de fac étaient restés à la fac pour la plupart.
Et Alex, lui, il était...
Et Alex, pareil, était resté, il avait continué le master, en fait.
C'est la scission.
Ouais, deuxième scission. On a eu plusieurs scissions, mais c'était une nouvelle scission entre lui et moi. Et donc je me retrouve à Paris en me disant, bon, je vais être réalisateur, mais est-ce que c'est pas un métier, réalisateur ? Je me dis, moi, je veux faire des films, c'est pas un métier, je vais pas gagner d'argent avec ça. Donc, je vais choisir un métier de technicien pour gagner ma vie. Et quand on faisait des courts-métrages, moi, j'adorais faire du montage. Donc je me dis, vas-y, bah, je rentre dans une école privée, ma mère m'a payé une année d'école CLCF pour avoir un diplôme de monteur. Bon, CLCF, si j'ai appris à faire du montage sur pellicule le premier trimestre, c'était rigolo.
Ouais.
Ça m'a appris à ranger mes rushs correctement, tu vois. Et après, bon, j'ai fait un peu David.
C'est le logiciel, c'est ça ?
Oui, c'est le logiciel, c'est une usine à gaz, c'est le gros logiciel de montage, c'est l'ancêtre et tout, c'est l'enfer.
À l'époque, Final Cut, Premiere existait pas encore, quoi.
Ah si, il y avait Premiere, si, Premiere existait.
Ah ouais?
Ouais, parce que moi j'avais appris, en fait, je suis arrivé en école de montage, je savais déjà faire du montage parce que j'avais appris tout seul. Moi j'ai tout appris tout seul en mettant les mains dans le cambouis, tu vois. Et ben, des fois c'est moi qui montrais des trucs aux profs quand j'étais à l'école. C'était un peu... et donc quand t'es en école au CLCF, faut que tu fasses des stages. Et à la fin de l'année, j'avais pas fait de stage. Et je vais voir le directeur, je dis, mais en fait, moi, j'ai pas reçu d'annonce. Et en fait, je regarde, en fait, ils n'avaient pas ma bonne adresse mail.
Ah, super.
Super. Donc, je me démerde pour trouver un stage tout seul. Et je vois une annonce de stage d'infographiste. Je dis, bah vas-y, j'ai envie de faire les deux. J'ai un peu de compétences, je vais postuler. Je vais au rendez-vous et j'arrive devant un immense immeuble. Et puis, je vais au sixième étage. Et puis, je m'assieds, j'attends. Et là, je vois Michel Denisot qui passe devant moi. Je fais « What the fuck ?» Et en fait, c'était un stage pour bosser au Grand Journal.
Ah, yes.
Et la recrutrice me dit « Je ne l'ai pas mis dans l'annonce parce que je ne voulais pas avoir 40 000 personnes. » Donc, on était deux à postuler. Et c'est moi qui ai eu le poste. Et donc, j'ai fait 3 mois de stage au Grand Journal. Pour le premier stage, c'était trop bien. J'étais jeune, tu vois, j'avais 25.
Ouais, et puis à l'époque, le Grand Journal, c'était en pleine bourre, quoi.
Ah ouais, c'était à fond, c'était le début d'Yann Barthès.
Ah oui, ok.
Et je me retrouve à faire des trucs. Donc on était trois graphistes dans un petit bureau. Et puis au fur et à mesure, vous voyez que j'allais faire des trucs, donc ils m'ont donné plus de choses à faire. Et j'ai ma petite fierté, c'est qu'ils avaient utilisé, je leur avais fait des smileys. Et ils les ont utilisés pendant des années, et personne ne le savait, mais moi j'étais content. Donc voilà, je fais mon stage au Grand Journal. Et en parallèle de ça, mes potes de fac arrivent à Paris. Et là, on monte une asso, parce qu'on veut faire des courts-métrages. Et on monte une asso de prod qui s'appelait Arétaf. C'était le nom on signait tous nos films Arétaf depuis longtemps. Il y avait un truc symbolique, il y avait AR et TAF, et les deux A étaient majuscules, c'était les A de Axel et Alex, tu vois. Donc on était les précurseurs, tu vois, machin. Et donc on était neuf, et on monte une asso à neuf. Il faut pas faire ça.
Non.
Il faut pas faire
beaucoup
ça.
Trop nombreux.
Trop nombreux. Bosser avec ses potes, c'est compliqué. Bref, on produit des cours et moi j'arrive à produire, j'arrive à faire un court métrage par an. Et arrive quelqu'un d'autre qui était important dans ma vie, Martial, un producteur de Beauvais, que je rencontre parce que un de mes potes de fac, donc à Amiens, Beauvais c'est à côté, hein, c'est en Picardie, nous dit un jour, oh, les gars, j'ai rencontré un prod à Beauvais dans un vidéoclub qui va produire un court-métrage qui est financé par la région. Il cherchait un jeune réal et en fait on s'est rencontré et donc il m'a proposé de le réaliser. On dit trop bien, vas-y de ouf quoi. Et moi je sortais d'école de montage et donc mon pote David me dit vas-y j'essaie de te caser en tant que monteur sur le court métrage, comme ça te fait une expérience, ça. Je dis ok. Donc ça se fait comme ça, je vais sur le tournage à Beauvais, je rencontre le fameux Martial, un personnage de ouf, un mec un peu bohème, tu vois, qui a de la rhétorique, qui vend les trucs, qui a de l'assurance. Je dis, ok, vas-y, c'est impressionnant. Moi, je cherchais des mentors à ce moment-là, en plus. Tu vois, je me dis, ok, il faut que je trouve des gens qui vont m'apprendre. Et je deviens un pote avec ce mec, en tant que monteur. Donc, il me fait bosser et tout. Il me dit, ah, franchement, c'est un bon monteur. Il me fait bosser sur d'autres trucs. Il venait de monter sa boîte, tu vois. Il voulait faire du cinéma. Il commençait, quoi. Donc, pour premier court-métrage financé par une région, c'est pas mal quand tu commences dans ce mode de prod. Et puis un jour, je lui dis, tu sais, moi, j'écris aussi, j'ai envie d'être réalisateur. Il me dit, ah bon, bah vas-y, fais-moi lire des trucs. Et je lui file un scénar que j'étais en train d'écrire, un film sur les bonbons, un truc un peu à la Jean-Pierre Jeunet, un peu poétique, tu vois. Et je lui fais lire, il m'appelle, il me dit, putain, mais c'est vachement bien ce que t'as écrit là, vas-y, moi je suis chaud, on y va. Et je lui dis, ah, ok, bon, peut-être que ce que j'ai écrit, ça a de la valeur.
Peut-être. Ou alors il le dit pour te faire plaisir.
Ouais, peut-être. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça, mais non, je le sens sincère. Okay. Tu vois.
Non, mais je veux dire, t'es convaincu que c'est bien ton truc.
Ouais, parce que ce que dégage ce mec, si ce mec-là me dit que c'est bien, c'est qu'il doit y avoir quelque chose.
Ok.
Et donc à partir de là, bah il me prend un peu sous son aile et je deviens son. Ça devient mon mentor, quoi, tu vois. Je deviens son réal. Il me dit, oh, vas-y, on va faire des trucs ensemble. Et en parallèle de ça, avec mes potes et mon asso, là, je fais un premier court-métrage. Et puis là, je vois ces deux univers. Je dis, ok, faut que je joigne tout ça. Je peux pas être dans la schizophrénie en ayant deux vies. J'avais déjà fait ça juste avant avec mon ex. J'ai vécu pendant 6 ans, en fait, entre Paris et Saint-Quentin. Donc le week-end, j'allais chez ma copine vivre ma vie de couple et la semaine, j'étais à Paris pour essayer de faire ma carrière de cinéaste. Et au bout de 6 ans, j'ai fait « ça marche pas du tout, ça ». Je m'étais persuadé que ma vie, ce serait ça. La semaine, je serais à Paris faire du cinéma et le week-end, je serais dans ma maison parce que j'avais une maison. Week-end, je faisais des travaux. J'allais le week-end faire des travaux dans ma maison. J'avais une baraque de 300 mètres carrés avec un jardin à Saint-Quentin, dans la rue derrière chez mes beaux-parents. Et je vivais dans cette espèce de schizophrénie qui était très fatigante. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop. Pendant le tournage de mon deuxième court-métrage, je me suis dit, stop, je suis allé voir ma meuf. Je lui ai dit, écoute, viens avec moi à Paris. Elle m'a dit non, on s'est quitté. Ça a été triste, mais bon, c'était pareil, un nouveau renouveau.
C'est trop intéressant. Il y avait vraiment l'idée de la vie que tu voulais avoir, peut-être en dehors de ta vie parisienne, c'est ça?
Ouais.
Et de ta vie de comédien, j'imagine, ou d'artiste.
D'artiste, quoi, ouais, de créateur. Parce que je m'étais dit, j'avais toujours cette espèce de... le cinéma, c'est pas un métier. Donc il me faut une barrière de sécurité, tu vois, il me faut un truc concret. Je sais pas d'où ça me vient, cette peur de l'insécurité, parce que mes parents, tu vois, quand je leur ai dit je veux faire du cinéma, ils m'ont pas dit oh mais non, surtout pas. Ils m'ont dit ok, vas-y, ça va être chaud, mais vas-y, pas de souci, on te soutient.
Donc, j'imagine que t'avais pas de rôle modèle autour de toi, t'avais pas de gens que tu connaissais et qui se disaient bon bah en fait, qui te permettait, pardon, de te dire, ok, bah, en fait, c'est un métier, il y a moyen d'en gagner sa vie, quoi.
Non, pas trop. Non, je pensais vraiment, je me disais vraiment que réalisateur n'était pas un métier. Alors qu'en vrai, tu peux être réalisateur en tant que, et réaliser des pubs, des machins, ça existe en tant que technicien, tu vois. Donc, non, j'avais cette vision un peu idyllique de l'artiste. Donc, je quitte ma copine. Et j'essaye de joindre voilà ce producteur avec qui j'ai des projets et mes potes de fac avec qui on fait des projets. Et parce que je me dis l'un va nourrir l'autre. Et ça s'est pas bien passé du tout. ça s'est pas bien passé du tout parce que Martial c'était un personnage et c'est pas passé avec mes potes.
C'est toujours compliqué, je crois, de joindre deux univers différents. C'est comme quand tu fais des soirées où t'invites des bandes de potes différents. Faut jamais faire ça, en fait.
Ça marche. Ça passe ou ça casse.
C'est ça. C'est vraiment qui tout double, quoi.
Et bref, il y a eu des histoires, il y a eu des trucs qui m'ont blessé. Des réactions, des comportements de la part de mes potes, notamment vis-à-vis de Martial. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, mais en gros voilà, ça a fait que j'ai un peu laissé mes potes.
Ok.
J'ai un peu laissé mes potes parce qu'il y a un truc qui m'avait blessé. En plus, on s'en est jamais vraiment parlé. Enfin, si un peu après. C'était, à l'époque, j'étais pas dans le dev perso. Tout
oui, ça, c'est ça, j'allais dire.
Non, j'étais pas du tout là-dedans.
T'étais jeune et juste, tu t'es senti blessé, sans doute que tu t'en es pas rendu compte, etc.
Oui, complètement. Et je trouvais que mes potes avaient été des cons, quoi. Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends les pourquoi, les comment, mais à l'époque, ça m'avait blessé. Et donc, je me lance avec Martial. Et donc, mon premier court-métrage sort, je fais quelques festivals et je commence à découvrir ce que c'est que la vie de réalisateur de court. C'est chiant, c'est long, c'est pour avoir des subventions, c'est la croix et la bannière. J'ai jamais eu de subvention d'ailleurs. Mais je continue et donc je fais un court-métrage par an avec d'autres prods aussi. Et avec Martial, on a des projets. Il y a ce court-métrage sur les bonbons là qui me tient à cœur, qui me dit vas-y, on va le faire pour quand même pas en faire un long. Et je me dis d'accord, ok, bah vas-y, je commence à écrire un scénario de long. Et comme je suis hyper actif, ah oui, c'est ça, en fait tout se passe en même temps, c'est-à-dire que j'écrivais et j'avais lancé un autre truc en écriture, j'avais commencé à me questionner sur la mort parce que je me rendais compte que dans tous mes scénarios, je ne parlais jamais de la mort. Et je me disais, et j'étais fier de me dire, vas-y, j'ai pas besoin d'avoir recours à la mort pour écrire une histoire. Et parce que tous mes potes écrivaient des trucs un peu dark, tout ça, machin. Et moi, j'étais là, genre, non, moi, je suis le mec positif et optimiste du groupe, tu vois. Et je me suis dit, ok, mais si j'écris sur la mort, j'écrirai, vraiment, ça sera le sujet du truc. Et je commence à me questionner sur l'enfer, le paradis, et je commence à écrire une histoire. Qui est un court-métrage à la base dans ma tête. Et donc, j'écris l'histoire d'une boutique, qui s'appelle Mortis Mercator, dans laquelle tu achètes des ustensiles pour tuer tes proches. Parce que la vie sur Terre est devenue un enfer pour le coup, et donc il vaut mieux mourir et aller au paradis plutôt que de rester sur Terre. Et il y a un contrat entre Dieu et cette boutique qui stipule que si tu meurs de la main d'un objet qui vient de cette boutique, t'as ta place directe au paradis. Mais il y a une rumeur qui dit que le paradis serait complet. Et j'écris ça en court métrage, et j'écris dans le train beaucoup, dans mes allers-retours entre ma maison et Paris. Et j'écris dans le train, et au bout d'un moment, ça fait 100, 120 pages, 130 pages. Et je sais pas du tout quoi en foutre, tu vois. Je suis un jeune réal, je fais des trucs. Moi, je réfléchis pas, je fais des trucs. J'attends pas qu'on me donne de la thune pour tourner. Donc, dès que j'écris un truc, je le tourne. Et ce truc-là, je me dis, faut que j'en fasse quelque chose. Et entre deux, je me remets avec une autre copine. Et ma meuf de l'époque me dit, pourquoi tu le ferais pas en théâtre? Parce que c'est beaucoup de dialogue. Je dis d'accord.
Le mec, il y a énormément de convictions. Ok, bah pas de problème.
Je fais ça. Et là, je vais voir tous les comédiens que je connais. Je leur dis voilà, j'ai écrit ça. Je veux le faire en théâtre. Est-ce que vous venez? Ils disent d'accord. Tous mes potes comédiens me disent d'accord, tu vois. Et je me retrouve dans ce projet de théâtre où j'ai 11 comédiens qui ont tous 20 piges de plus que moi, tu vois. Et tout le monde m'a dit oui. Tout le monde m'a dit oui, je leur dis par contre je sais pas comment on va le faire, hein. Chez même le théâtre j'y connais rien, j'ai pas de thunes, mais ouais vas-y on y va, tout, on commence à répéter. Et à un moment donné je vais voir Martial, mon producteur, avec qui en parallèle on bossait sur les scénarios de cours et tout, et je dis ah au fait je suis en train de faire ça. Il me dit putain t'es chiant, tu fais ça à chaque fois, tu commences des trucs, je dis ouais mais c'est parti, c'est lancé. Il me dit ouais ok bah vas-y je vais t'aider, on va le produire ensemble. Donc il monte une boîte
de prod de
théâtre. Avec zéro thune toujours, hein. Il y a toujours zéro thune, hein. Tout ça part de juste et il arrivait toujours, et c'est un vrai personnage, il arrivait toujours à faire ce qu'il disait. Il dit ah, vas-y on va monter une boîte, je dis mais pas de thune, ouais, t'inquiète, c'était sa phrase, t'inquiète. Donc il monte la boîte machin, moi je mets un peu de thune dedans, je mets rien, je mets 500 balles tu vois, bon à l'époque pour moi 500 balles c'est quand même beaucoup mais... Et voilà, ça a été 3 ans de ma vie. Pendant 3 ans, on répète, on cherche des théâtres. Il y a un théâtre qui se trouve intéressé par la pièce. C'était la Folie Théâtre, qui est à rue de la Folie Méricourt. Super joli petit théâtre. Et le mec accepte sur un bout de script, quoi, tu vois. Il me dit ok, machin. Et on joue pendant, c'est 2013, fin 2013, début 2014. On joue cette pièce 4 soirs par semaine. Ça ramène pas grand monde. Hein, parce que quand t'es pas connu, il y a 600 spectacles par soir à Paris, plus de 600 spectacles. Wow. Donc qu'est-ce que tu veux faire?
Bah oui.
Et donc, je fais quelques salles. C'était une salle de 90 places. Il y a quelques critiques, il y a une critique au début à la première, il y a une mauvaise critique, enfin une critique dans, c'était Télérama je crois, il y avait une page ou deux dans Télérama où il parlait de des spectacles un peu semi-pro on va dire, et donc le mec du théâtre m'avait dit ce gars-là si t'as une bonne critique ta pièce elle va décoller,
okay.
Et il y a la critique était je l'avais pris dans la gueule à l'époque, hein, parce que...
Tu la prends encore là dans la
ouais,
gueule.
Ouais, ouais. Oui, un peu. Ça commençait... il disait un auteur pas dénué de talent. Donc tu vois, par la négative, c'est chaud. Mais bon, vu le mec que c'était, mon prod m'a dit... Non, franchement, mon prod m'a dit c'est une super bonne critique. Un auteur pas dénué de talent, machin. En gros, c'est pas mal, mais au final, rien ne marche. Et il avait raison. Il avait raison, quand j'ai écrit ça, j'étais jeune, je l'ai écrit comme ça, tu vois, sans aucun outil. Et du coup, voilà, ça marche pas trop. Au final, on a perdu de la thune. Alors ça, j'ai jamais compris. À la fin des représentations, le mec du théâtre m'a dit « Ouais, désolé, vous avez perdu de la thune » et il m'a refilé un chèque de 2000 balles. Mais c'est parce qu'on avait avancé plus, je sais pas trop. Donc, moi, dans ma tête, j'avais avancé de la thune il y a 3 mois et là, j'en récupérais. Dans ma tête, j'en avais gagné, tu vois, bref. Et donc, à ce moment-là, mon prod me dit j'ai rencontré un réal là avec qui j'ai envie de bosser, je vais te montrer ce qu'il fait. Je fais ok, vas-y. Il me montre un court métrage qui s'appelle Le Colleur d'affiche et je regarde le court et je suis super vénère. Je dis à mon prod mais c'est n'importe quoi, tu prends un mec qui fait la même chose que moi, le même univers et tout machin, on va se mettre sur la gueule, ça a pas de sens, tu vois. Et
oh, l'ego.
Ouais, grave. Okay. Ah, mais grave, grave. Et donc, ce mec, c'était Fabrice de Bonny.
Oui. Fabrice de Bonny, qui est avec qui
qui est mon co-auteur sur Tout le monde s'en fout. C'est avec lui qu'on a créé la série Tout le monde s'en fout. Et un soir de présentation de la pièce, il y a, je sais pas, une petite vingtaine de personnes. Donc, c'était une soirée plutôt cool. Et à la fin, je vais voir mes comédiens dans les coulisses. Et ma comédienne me dit, putain, c'était trop dur ce soir. Il y avait un mec au premier rang, il faisait la gueule et tout. Oh là là, c'était chaud et tout. Et là, il y a le producteur qui rentre dans les coulisses avec un mec. Et elle me dit, oh putain, c'est lui qui faisait la gueule pendant toute la soirée. Et donc, c'est Fabrice. À qui Fabrice, qui est aussi donc qui est coach en développement en neurosciences, spécialisé en neurosciences appliquées, qui est réalisateur, auteur et qui est aussi script doctor et prof de dramaturgie. Et donc, Martial, le producteur, avait dit à Fabrice, tu regardes la pièce d'Axel et tu notes tout ce qui va pas. Et tu lui dis. On s'était jamais rencontrés. On s'était une fois au téléphone où j'avais dit, il est bien ton court-métrage. Et donc Fabrice, il m'a dit, j'avais la pression de ouf, quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faisait la gueule. Et donc ce soir-là, Martial nous rencontre. Il fait comme d'hab, il dit, ouais, voilà, parlez-vous et puis il se barre. Comme des cons, tu vois. Et ce soir-là, on a...
Mais c'est quand même la meilleure façon de faire, je crois. Aller dans le bain.
Ouais.
Démerdez-vous.
Ça, il me l'a déjà fait avec des gens avec qui ça n'a pas du tout marché.
Ouais, mais, c'est un, mais c'est une.
Mais oui, c'est, ouais,
je
mais,
crois
oui,
non, final, c'est une bonne oui. façon de faire, c'est un bon
film. C'est vrai. T'as pas le choix en tout cas.
Bah oui, c'est ça.
Et ce soir-là, Fabrice, on a marché dans la ville. Il dit, viens, on marche, j'aime bien marcher. Je fais, ouais, d'accord. Et on a marché pendant, je sais pas, 2-3 heures et on a parlé en boucle et en boucle et en boucle. Et il me parlait de dramaturgie. Et il me dit. Ah non, ça c'est plus tard qu'on a fait ça. Non, c'est ça. On se rencontre ce soir-là. Il me dit, ok, vas-y, on va peut-être bosser ensemble. Et le lendemain, je reçois un SMS de Fabrice qui me dit, viens chez moi à 14h, j'ai des trucs à te dire importants pour ton avenir. Je me dis, mais c'est qui ce connard, quoi? Pour qui il se prend? Je fais, ok, vas-y, je viens à 14h. Et c'est marrant, c'était là, c'était juste à côté rue de la Bidassoa. Et je vais chez lui à 14h, je fais, ouais, vas-y, tu veux quoi? Et là, pendant 2 heures, il m'a fait un cours accéléré de dramaturgie. parce que lui, de manière très dans une idée de rentabilité, il m'a dit ok, si je dois bosser avec ce mec là il faut qu'il ait les mêmes outils que moi, sinon on va perdre du temps. Et là il me fait un cours accéléré de dramaturgie et je me prends ça dans la gueule. Donc la dramaturgie, pour ceux qui savent pas, c'est la méthodologie pour écrire une histoire. Parce qu'il y a une méthodologie pour écrire une histoire. Ça, je sais que c'est chiant à entendre, mais je vous jure qu'il y a des outils.
Oui. Après, tu ne regardes plus jamais un film de la même façon.
Plus jamais, plus jamais. Et surtout quand t'écris, enfin, tu te rends compte que c'est des outils que tu utilises, mais sans les connaître. Donc, tu les utilises mal, tu vois. Et donc, Fabrice me fait un cours de dramaturgie, condensé en 2 heures. Et je fais, OK, en fait, j'ai jamais rien compris. J'ai envie d'effacer tout ce que j'ai écrit avant et de tout recommencer, tu vois. Et à partir de là, pendant, donc ça, c'était 2014. Ouais, donc pendant 3 ans après ça, on a des projets, lui et moi, avec Martial, producteur, et des projets de cours, de long, de machin. Et puis on commence à bosser l'un et l'autre sur les projets de l'autre. On fait pas de trucs ensemble vraiment, on crée rien ensemble. Et voilà, ça a duré 3 ans quand même, ok. Trois ans.
J'allais dire, tu fais quoi pendant ce temps-là, toi qui avais des rêves de réalisation, de...
Bah justement, il se concrétise un peu parce que ça devient un peu plus solide.
C'est trop intéressant aussi de se rendre compte à quel point c'est long.
Ah ouais, non mais c'est super long.
Pour en arriver là.
Réussir du jour au lendemain, ça prend 20 ans hein, de toute façon. Non mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et c'est vrai qu'avec Fabrice, là où on s'est vraiment bien trouvé en termes de
fit.
Ouais, mais ce qui l'un compense l'autre.
Complémentaire.
La complémentarité, okay. Merci. C'est que lui, il a pas beaucoup tourné. Il avait besoin d'écrire, de mettre beaucoup d'énergie dans l'écriture et d'attendre que ce soit parfait. Donc il tournait pas beaucoup. Moi, j'écrivais vite fait et je tournais tout de suite. Donc ça a bien marché. Donc toi, on s'équilibrait comme ça, quoi. Et donc, pendant 3 ans, on est à l'état de projet. Ok, on écrit, on continue d'écrire, on a des idées, on cherche des subventions, on rencontre des gens. Martial était fort pour rencontrer des gens et pour créer du lien, tu vois. Et donc, moi, je m'ennuie parce que je tourne pas. Donc, avec mon pote Benjamin Carboni, qui était un comédien qui était dans ma pièce de théâtre, lui était branché à fond YouTube et tout. Il connaissait plein de trucs et tout, et il me dit. Tu veux pas qu'on fasse un truc tous les deux, vas-y, on a le même humour, on se fait un truc vite fait, quoi. Et pendant 3 ans, je fais le Mobile Film Festival, je fais des petits trucs comme ça, toi, qui me permettent quand même de garder des moments où je tourne, quoi. Et un soir, on est chez moi avec Binge, et il me dit, vas-y, on se fait un format court d'humour absurde avec les trucs qu'on kiffe, quoi. Et donc là, on crée Le Jour où j'ai inventé, le fameux dont on parlait tout à l'heure, et on fait un premier épisode. Donc c'est du format court d'une minute trente, 2 minutes sur des petits sketchs de 10 secondes où en gros on énonce le nom d'une invention débile et on l'illustre avec un plan. Du genre le tatouage invisible. Voilà, vous imaginez le genre de connerie que ça peut être. Et on poste ça, on se fait quelques vues à droite à gauche, et puis on se refait quelques épisodes et là il y a Mademoiselle qui fait un post là-dessus, je fais oh, putain trop bien. Et on découvre un peu, je découvre le milieu de YouTube. Mmh. Je vois ce que c'est que de poster un truc, une bouteille à la mer et de voir s'il y a des gens qui regardent. Donc nous, on continue cette série et puis on la rend un peu plus... Moi, j'ai plein de potes techniciens qui ont du matos, donc c'était assez facile pour moi de tourner un truc dans des conditions un peu plus cool, quoi. Et on fait une première saison, une deuxième saison. On est partagé une ou deux fois par Minute Buzz, donc on commence à avoir un peu d'abonnés, tu vois. Et donc, en parallèle de ça, il y a court-métrage, long-métrage avec Martial et Fabrice. Ça avance pas trop, ça avance, mais il y a des projets. Et en autre parallèle de ça, une autre histoire de couple pour moi. Je sors avec une comédienne. Je tombe très, très, très amoureux. Donc, je lui écris des films et tout. Et on fait des trucs ensemble. Je refais 2 courts-métrages. Qui sont les derniers courts-métrages que j'ai fait. Je les écris pour elle, tu vois. Oh,
tu es ma mouse.
Ouais,
tu es ma mouse.
Exactement. donc je peux pas m'empêcher de tourner, toi, donc je tourne quand même, et c'est toujours pareil, j'écris, je lance le projet, je dis à mon producteur c'est en train d'être fait, je dis, putain t'es chiant, donc on y va, vas-y. Donc je refais des courts métrages.
T'as vraiment ce truc, hein?
Ouais, mais j'ai besoin de faire des trucs, moi je suis vraiment, j'ai besoin de faire des trucs. Et donc YouTube, courts métrages, couple, tout ça, ça avance, et puis un jour plus je bosse avec Fabrice et plus je m'éloigne de Martial. Est-ce que je commence à voir les travers, entre guillemets, c'était beaucoup de paillettes et d'étoiles dans les yeux tout le temps. Et au bout d'un moment, trop de paillettes, tu vois plus la réalité en fait. Donc je commence à voir.
Tu commences à vivre aussi.
Mais je commence à vivre,
à prendre un peu d'expérience.
Ouais. Et je commence le dev perso en plus à ce moment-là.
Ah bah alors là.
Et là, c'est grosse map dans ta tronche quoi. C'est ok, ouais, tu remets tout en question.
C'est Fabrice qui te.
Non,
qui
c'est.
Te fout un peu le pied à l'étrier.
Non, parce que ça a été un point d'accroche sur notre relation. Non, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est cette femme en fait.
C'est ta chérie de l'époque.
C'est ma chérie de l'époque qui qui commence à manger bio.
Ça vient de loin, quoi.
Non, mais ça vient de loin. Non, ah oui, non, c'est pas ça. Non, c'est que. Non, voilà, c'est ça. En fait, c'est que je quitte une relation de 2 ans et demi dans laquelle j'étais pas du tout. J'étais vraiment malheureux. J'arrivais pas à quitter cette personne parce qu'il y avait. Il y avait.
Comment on appelle ça, la dépendance affective?
Ah oui, ouais. Non, il y avait du chantage affectif de l'autre côté.
Ah ok, d'accord. Et donc, toi, avec ta dépendance affective, c'est ça, j'imagine?
Et moi, j'étais pas amoureux d'elle, en fait. Donc, ça a duré 2 ans et demi, tu vois. Et j'ai essayé de la quitter plusieurs fois. Bref, il y avait. Pas conscient, forcément, tu vois. Et en plus, elle bossait sur ma pièce de théâtre. Je l'avais mise, elle bossait sur ma pièce.
Et parfois, donc, c'est dur de tout mélanger.
Ouais, ouais.
J'imagine que t'as envie en fait, parce que t'as envie que tout soit mêlé, t'as envie d'un truc absolu, etc.
Ah ouais,
etc. Quoi.
Ça c'est.
Et puis après, quand il faut démêler.
Ah, c'est chaud. Mais moi j'ai eu la croyance pendant longtemps que je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un si on n'était pas amis. Et heureusement, c'est faux. Parce que
ça serait compliqué.
Ça serait trop compliqué quoi. Et donc j'arrive à quitter cette relation le soir de la dernière du théâtre. D'ailleurs, je lui dis écoute, le soir de la dernière, on se sépare, c'est mort, c'est fini. 2 mois après, je rencontre. Ma nouvelle chérie, je tombe fou amoureux, c'est le coup de foudre machin, puis le coup de foudre créatif en plus, tu vois, elle est comédienne, je suis réalisateur, mon dieu, machin.
J'imagine tellement.
Ouais. Et c'est ça. Et donc, avant de commencer cette nouvelle relation, j'avais entendu parler de dépendance affective, ce terme. Et je me dis, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que je suis en plein dedans. Et donc, je fais des recherches sur Google, je tape dépendance affective et je clique sur le premier lien que je trouve et je lis un article de 1 ou 2 pages qui m'a retourné la tête. Du genre, en fait, en gros, ça disait on est amoureux de l'amour. C'est ça la dépendance affective, c'est on est conditionné et tout ça, machin. On pense que l'autre va nous rendre heureux alors que la seule personne qui peut nous rendre heureux, c'est nous. Alors, quand tu lis ça et qu'on te l'a jamais dit, tu fais ah, mais pourquoi ? Ah bon, je savais pas, moi, tu vois. Et là, je commence à acheter des bouquins et des bouquins et des bouquins. Premier bouquin que j'ai acheté, c'était L'homme qui voulait être heureux, justement, de Laurent Gounelle, qui est un auteur super cool parce qu'il fictionnise, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais le dev perso. Donc, c'est plus facile d'y entrer à travers un roman et une histoire, quoi.
Un peu comme Paulo Coelho.
Complètement.
Mais j'ai lu aussi Mélissa D'Acosta, là, Tout le bleu du ciel, qui fait très bien ça, mais autour du.
Ouais,
autour de l'instant présent, etc. Ouais, etc. C'est hyper malin, quoi.
Et je tombe là-dedans, voilà, je tombe là-dedans, et là, c'est le début, quoi. Quand tu tombes dedans, c'est mort, tu peux plus jamais. C'est la pilule rouge, hein. C'est vraiment la pilule rouge. Et donc voilà, donc du coup, de par tout ça, je commence à m'éloigner de Martial. Et un jour, Martial nous dit qu'en gros, il arrête. Il est un peu déchanté aussi. Il dit j'arrête la prod, en fait, ça marche pas et tout. Et donc, on se retrouve comme des cons avec Fabrice. Plus de projet. Plus de projet, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, bien, on continue à essayer de les faire tous les deux, mais bon, la prod, ça nous emmerde, on aime pas ça.
Ouais.
Et je dis à Fabrice, écoute, moi je suis un peu sur YouTube là, je lui dis viens, on fait des trucs, on va pas attendre, tu vois. Viens, on fait des trucs. Ok. Lui, il terminait ses études de coaching en neurosciences appliquées là. Et donc tous les jours, il me téléphonait en me disant, putain mec, j'ai encore pris un truc de ouf sur le cerveau, ça marche comme ci, ça marche comme ça, et tout le monde s'en fout. Et on n'arrêtait pas de dire, tout le monde s'en fout entre nous, tu vois. Et un jour, je lui dis, vas-y, on se filme, on se met dans ton canap là, c'était l'époque de bloquer.
Ouais.
Donc on se dit vas-y, on fait un plan à la bloquer, on est dans ton canapé et on discute des sujets là qui nous passionnent, et si ça nous passionne, ça va peut-être intéresser d'autres personnes, tu vois. Et il me dit ouais, pourquoi pas, par contre j'ai pas du tout envie d'être filmé, mais si tu veux je te filme toi. Je fais ok, donc dans le jour où j'ai inventé, moi je jouais aussi, mais je jouais, j'étais le mec du fond qui dit rien, tu vois, parce que j'avais peur et tout. Je me dis ok, vas-y, je veux bien me mettre en scène, mais j'y vais doucement. En plus mon pote Benjamin, c'était un comédien,
c'était un vrai comédien
très drôle en plus, tu vois. Donc j'y vais avec beaucoup d'humilité, tu vois. Et là, mon pote Fabrice me dit, vas-y, je te filme toi. Je fais, ah, ok, mais il y a du texte et tout. Et il m'a dit une phrase toute bête, il m'a dit, non, mais moi, je pense que tu peux le faire. Et quand une des personnes que tu estimes le plus au monde te dit je pense que tu peux le faire, bah tu te dis ok, je pense que je peux le faire. Et puis bah, en 48 heures on s'est dit vas-y, on écrit un truc, on voulait appeler ça et tout le monde s'en fout, c'est sûr. On s'est mis dans sa cave pour pas faire chier ses colocs. On s'est dit mais qu'est-ce qu'un mec foutrait dans une cave? On a dit ah vas-y, c'est un geek. Ok, c'est un geek. Qu'est-ce qui nous fait rire de parler avec condescendance? Bon, bah, on a qu'à faire ça. Et puis voilà, en 48 heures, on a écrit. De quoi on parle? C'est quoi le sujet qui nous anime le plus? C'est la place des femmes. C'est le truc qui nous fait le plus rire jaune, tu vois. Et sur lequel on a le plus de trucs à dire. Vraiment, comme des feignants, tu vois. Vas-y, on vient, on fait un truc simple, quoi. Et puis voilà, on a écrit, tout le monde s'en fout. On s'est mis dans sa cave, on l'a tourné. On l'a mis sur Internet.
Mais c'est une bonne façon, tu vois, d'écrire un truc simple et d'être feignant, parce qu'en fait, ça vous permet de le faire vite. Si vous étiez dit, OK, il faut qu'on ait une méga prod, ouais, et grave. Que ce soit en hélicoptère, etc.
Ouais. Puis il faut que ça marche. On s'est surtout pas dit ça. On s'est dit, il faut que ça nous fasse kiffer, nous. Et il faut qu'on prenne du plaisir. Et donc, pour faire les choses bien, il faut faire les choses qu'on sait faire. Mais personne nous dit ça non plus, tu vois. Tout le monde, on est dans une société qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. On ne sort pas de sa zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, on meurt. On agrandit sa zone de confort. On se met au bord et on fait ce qu'on sait faire, tu vois. Et ça a marché. C'est chiant, mais ça a marché, quoi.
J'ai interviewé un mec qui m'a dit, moi j'appelle ça la zone de connu.
Hein, c'est pas mal.
Je trouvais que c'était marrant.
C'est exactement ça.
Il manque le troisième larron dans l'histoire.
Alors
parce
oui,
vous n'avez pas de prod.
Alors on a, c'est ça. On fait le premier épisode. On le met sur YouTube. On l'envoie à nos potes. On fait 4000 vues. On est comme des oufs. Oh, trop bien, ça marche et tout. Je le montre à 2-3 potes. Notamment, c'est marrant, à l'époque, je traînais avec Marion Séclin,
ouais.
Qu'on avait invité un peu par hasard à venir dans le jour où j'ai inventé. Puis on était devenus potes et puis on se voyait. Et donc Marion, c'est une des premières qui a vu le premier épisode et tout le monde s'en fout. On était chez moi, je venais de le monter et il y avait Benjamin et Marion et je leur ai dit j'aurais montré ça. Et on a dit ouais, franchement c'est cool quoi. Et puis je me suis dit bon vas-y, si ça commence à être vu, 4000 vues, les gens, les retours sont positifs, peut-être qu'il faudrait essayer de le diffuser. Donc j'ai juste cherché, je vais chercher des magazines féminins ou féministes qui pourraient le relier. Je suis allé sur auféminin.com, la page Facebook, et leur bannière, c'était écrit « Envoyez-nous vos vidéos à telle adresse ». Je fais « D'accord, j'ai envoyé ». Elle m'a répondu deux jours après « Oui, votre vidéo peut tout à fait correspondre, on la partage dès demain ». Rien de fou, tu vois, rien de « Ah, oh, c'est génial, juste, oui, ok ». Et là, le buzz, de ouf. J'ai pas retrouvé ce lien, mais je pense que ils ont re-uploadé, en fait. Ils ont pas partagé.
Oui. C'était un truc qu'ils faisaient à l'époque, mais en fait en 2017, j'imagine
c'est ça, ouais, c'est ça. février 2017.
À l'époque, vous êtes tombé en plein, et ça, je crois qu'il faut vraiment le dire, parce que c'est aussi une question de chance et de moment parfois. C'est qu'en fait, février 2017, Facebook avait décidé d'aller taper YouTube, et donc en fait, tout le reach des vidéos que tu uploadais, et c'est pour ça en fait qu'ils le partageaient pas, ils l'uploadaient eux-mêmes en fait pour dire en fait, c'est nous qui uploadons ce truc. On a eu, nous, chez Mademoiselle à l'époque, un reach énorme pendant 3-4 mois, c'est redescendu aussi vite.
Okay.
Mais vraiment, l'objectif de Zuckerberg, c'était OK, il faut qu'on devienne une plateforme de vidéos, donc on va donner un reach fou aux vidéos. Et donc, forcément, quant au féminin, qui avait à l'époque en plus, qui n'avait pas une aussi grosse communauté qu'aujourd'hui, ils étaient en train de commencer à développer.
Je crois qu'ils avaient 100 000 ou 100 000, ouais, c'était pas énorme. Hein.
Pour un site de la taille d'Auféminin, ouais, bien sûr. Non, ils étaient pas très très bons sur Facebook à l'époque. Ça fait décoller le truc, quoi.
C'était 10 millions de vues en 3-4 jours, je crois. Alors, 10 millions de vues de l'époque, c'est, je pense que dès que tu scrollais et que tu passais, oui. ça comptait comme une vue, mais ça veut dire quand même qu'on était partagé de ouf. Quoi,
ils ont sorti là dernièrement que Facebook avait triché sur tous les chiffres,
c'est
etc.,
vrai.
Etc. Ouais, ça, ils ont une class action contre eux de la part des agences de pub parce qu'en fait, ils ont menti sur tous les chiffres pendant des années, machin. Bon, bref. En tout cas, il y avait quand même, ça a été un gros pas en avant pour vous, quoi. Même si c'était pas 10 millions, même si c'était 1 million.
Ah oui,
non,
mais en fait, c'était fou, quoi. C'était fou et, et là, on s'est dit, merde, nous, on avait dit, on fera un épisode de temps en temps pour se faire plaisir. On voulait parler de féminisme, de psychologie et de physique quantique. C'était les trois sujets dont on voulait traiter, tu vois. Et donc, on a ce truc-là qui marche et on se dit, OK, vas-y, là, on tient quelque chose. Faut pas qu'on fasse les cons. Donc, Fabrice m'a dit, OK, il nous faut une prod et il nous faut un journaliste. si on veut maintenir ça sur le temps. Il m'a dit, le seul prod honnête que je connaisse, que j'ai rencontré, c'est Christophe, qui avait produit donc ce fameux court-métrage que j'avais vu avec Martial, là.
Il y a d'autres prods honnêtes, hein, faut le dire.
Il m'a dit, c'est le seul que j'ai rencontré. Oui, mais il y en a d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Levez-vous. Levez la main, les prods honnêtes. Non, oui, bref.
C'est un métier qui
c'est
est.
Un métier
qui c'est un métier est... qui est compliqué.
C'est
je crois
vrai.
Qu'en plus, c'est un métier compliqué. Donc,
mais franchement, je.
Mais bon.
Ouais. Merci aux prods d'exister parce que c'est, ils font le boulot que nous on veut pas faire, les créatifs.
C'est ça. En gros, si vous savez pas, mais les prods, c'est un peu les gens qui financent les films et qui organisent
qui vont,
les tournages.
Qui vont chercher les financements, en tout cas. Il y a cette croyance que les prods ont de la thune. Un prod qui réussit à vendre un projet, oui, mais c'est pas lui qui sort de la thune. C'est lui qui va toquer aux portes pour dire voilà, j'ai ce projet. Et donc, c'est censé être la personne qui prend le plus de risques, en fait, dans un projet. Et les prods qui prennent des risques, c'est de plus en plus rare. Mais c'est compréhensible parce que c'est aussi, il faut faire de la thune, tu vois, c'est le but. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre être rentable et être créatif, quoi. Et donc, on va voir Christophe. On lui dit, voilà, on vient de faire ça, ça a fait un buzz. Est-ce que tu veux nous aider à le produire? Alors, Christophe n'y connaissait rien en YouTube. Il faisait de la pub, il faisait du cinoche. Enfin, il essayait de faire du cinéma, il faisait des cours de la pub. Et il avait un premier long qui était en prod, mais il dit ok, vas-y, je vais aller me renseigner. Et Fabrice me dit, journaliste, il y a mon frère en fait qui est la personne qui aura le plus de billes à mettre dans ce genre de sujet, genre ça fait partie de lui, c'est sa manière de penser et tout. Donc on appelle Marc, on lui dit Marc, on a fait ça. qui lui en plus était hyper au fait de tout ce qui était vidéo internet parce qu'il avait monté des pôles vidéo dans plusieurs, plusieurs journaux et tout. Et Marc nous a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, les gars, là vous êtes comme dans Mario Bros, vous venez de choper une étoile, donc vous clignotez pendant quelques secondes, là vous êtes invincible, maintenant faut savoir où vous allez avec ça. Et
très bonne métaphore.
Ouais. Et donc ok, on s'est dit vas-y, on va se structurer, on va faire un épisode par mois. Et ok, on fait quoi en deuxième épisode? Tu sais, le deuxième, tu fais quoi en deuxième film quand le premier a marché? Et là, on demande à Marc, ok, Marc, on fait quoi? Et il nous dit, bon, les gars, déjà, votre sujet, c'est la dissonance cognitive. C'est de ça que vous parlez dans votre série. Ah bon, d'accord. Et c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, la dissonance cognitive.
À l'époque,
c'était pas encore, ça commençait, tu vois. Ok, c'est quoi la dissonance cognitive? Bah, c'est quand ton cerveau te transforme ta réalité pour te convaincre que t'es pas débile au point de faire des choses incohérentes. C'est ça que ça dit. Et il nous dit, il y a un sujet de ouf, c'est l'argent. L'argent, ça n'existe pas. C'est des chiffres sur un écran. Et il y a des guerres, des meurtres, des machins, et toute ta vie est basée sur des chiffres sur un écran. Et quand il dit ça comme ça, tu fais, oh grave, faut trop parler de ça. C'est de ça qu'on veut parler, tout le monde s'en fout, tu vois. Et donc, je me rappelle, on était au téléphone et on dit, vas-y, dis des trucs sur l'argent. Et il disait des trucs et on notait. Et donc, c'est devenu l'épisode de l'argent. Et puis après on a fait vas-y, on veut traiter de psychologie, vas-y, les émotions c'est ouf, les messages des émotions c'est ouf, on s'est dit on fait un truc à la Vice Versa, on personnalise des émotions, qui est l'épisode le plus vu aujourd'hui et qui continue encore d'être le plus vu, quoi. C'est dingue,
comme quoi
ouais des fois. Et c'est un des plus simples, les plus didactiques, tu vois. C'est point A, point B, point C, puis c'était parti, tu vois, et tout le monde se fout, c'était parti. On est passé à 2 épisodes par mois. On a commencé. Christophe est revenu en me disant bon, j'ai regardé pour la prod YouTube, il y a rien, il y a pas de chemin tracé, il y a pas trop de subventions. Donc à l'époque, il avait réussi à nous choper une petite subvention du CNC qui était l'aide au développement digital.
Ok.
Qui était 5000 balles, je crois, tu vois. Mais bon, nous c'était ouf, quoi, parce qu'avant on payait de notre poche, quoi. Et on tournait dans la cave de Fabrice, donc les 4 premiers épisodes sont vraiment dans sa cave. Et un jour, Christophe vient chez Fabrice, ouvre la porte de la cave, donc ouvre la porte sur Fabrice parce qu'il était derrière, tu vois. Il passe la tête comme ça, il dit, les gars, c'est fini, ça. Nous, non, on est bien, on est chez nous, tu vois, on a tout à disposition. On dit, non, vous venez à la prod. Il avait des bureaux à Ménilmontant. Et on a donc l'épisode 5 et 6 qui sont le bonheur et le vote blanc. Si vous regardez, les murs, dans le fond, c'est des tapis. Donc c'est les murs, ils sont tordus, donc on avait des tapis avec des imprimés briques, on avait recréé à peu près le décor comme on pouvait, tu vois. Et à partir de l'épisode 7, il a trouvé un décorateur de cinéma, Aurélien Maillet, qui est super doué, qui nous a recréé la cave en placo, quoi, tu vois, en bois. Et là, toutes les semaines, on avait des trucs de ouf. On avait, il y a Comédie Plus qui nous a contacté pour faire un show d'une heure et demie sur Et tout le monde s'en fout. Ok, ça s'est jamais fait. Tiens, on a ce genre de proposition. On a Larousse qui nous propose de faire un livre, les éditions First, machin. Moi, un jour, je reçois un SMS qui dit bonjour, je suis Pierre Alexandre, je suis le producteur de Johnny Hallyday et je voudrais bien vous mettre en scène. Qu'est-ce que c'est que ce message? Je vais au rendez-vous et j'étais vraiment chez Warner, quoi. J'étais chez Warner et le mec me dit je sais pas si vous avez prévu de mettre ça sur scène, mais moi je suis prêt à vous aider. Et tout a été comme ça. Tout a été comme ça. Des propositions de ouf auxquelles on dit oui, d'accord, et on verra comment on fait plus tard, tu vois. Et
là, ça fait quoi? Ça fait 4, 5 ans?
Bah, 2017, ça va faire 5 ans. On va être à la fin de la saison 4. Et on arrête. Ouais, on arrête là.
Je savais pas.
On avait dit qu'on en ferait 3, on en a fait une 4e parce qu'il y avait le spectacle. On l'a fait durer sur 2 ans parce que déjà Covid.
Ouais.
Et puis on est passé de 2 par mois à 1 par mois. Mais voilà, là on va arrêter la série.
Vous avez un peu fait le tour ou...
C'est un peu tout ça, c'est un peu on a fait le tour. On pourrait, il y a des sujets, on pourrait. On va continuer pendant 10 ans, en vrai, on fait tellement n'importe quoi que... que voilà, sur l'être humain et sa dissonance cognitive, il y a des trucs à dire. Mais oui, non, puis envie de faire autre chose, tu vois. Moi, je m'ennuie vite, donc 5 ans sur un seul projet, c'est ouf, en vrai.
Parce qu'entre-temps, t'étais vraiment en focus là-dessus.
Ça a été 95% de notre temps et tout le monde s'en fout, c'est devenu ma vie, quoi. Et j'en suis très content et vraiment, merci. De la gratitude, là, j'en ai beaucoup parce que. Ça a été vraiment du jour au lendemain. J'ai pu... Alors, je gagne moins bien ma vie qu'avant. Ça, c'est faut le savoir.
Comment ça?
La légende du YouTuber qui se fait de la thune parce qu'il fait des millions, non, en fait. Tu peux, si tu fais des placements de produits, si tu fais des opérations spéciales pour Sprite, pour Coca. Nous, on fait pas ça. On parle de sujets éthiques. Donc, on a...
Ça coûte cher
l'éthique, putain. L'éthique. On a dit non à beaucoup, beaucoup de pognon, hein, franchement, mais on a voulu rester cohérent.
Mais c'est intéressant ça, parce que votre deuxième épisode, c'est sur l'argent.
Ouais.
Si je puis me permettre, il y a un moment où...
Complètement, ouais, complètement. Mais des fois, je me dis, mec, au tout début, tout le monde s'en fout, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je fais des millions de vues, c'est bon, je vais gagner du pognon. Sans savoir comment, mais je me suis dit, ça doit être comme ça que ça marche. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. Et puis, en fait, je m'en fous un peu de l'argent. Moi, tant que j'ai de quoi... Moi, aujourd'hui, je gagne ma vie et grâce au spectacle, je suis intermittent du spectacle. J'ai mon statut d'intermittent. Donc, je gagne mes 1800 euros de chômage. Plus un peu plus de temps en temps. Quand je joue mon show, je suis payé. Quand je suis sur scène, tu vois, au strict minimum, mais je suis payé. Donc, j'ai... Au début, tout le monde s'en fout. Moi j'ai arrêté quand je bossais en tant que monteur, j'étais auto-entrepreneur et je me faisais payer 450 € la journée en auto-entrepreneur. C'est les tarifs, tu vois, quand t'es monteur. Donc je bossais toute ma vie, j'ai bossé 5-6 jours dans le mois, je pouvais payer mon loyer, m'acheter à bouffer et je faisais mes projets à côté à fond, tu vois. J'ai eu la chance de ne jamais avoir eu affaire de CDI, de poste. Je bossais dans des trucs chiants quand j'étais monteur. Mais sur lesquels je crache pas parce qu'ils m'ont fait bouffer.
Bah oui.
Mais voilà, du jour au lendemain, donc je continue à faire du montage à côté parce que la première année, tout le monde s'en fout, ça nous coûte de l'argent. Mais j'ai moins le temps de faire mon métier de monteur, donc je commence à avoir de moins en moins d'argent, puis moins en moins envie de le faire. Moi, je bossais pour les autres, pour les projets des autres, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai fait des trucs cool en tant que monteur, franchement, j'ai eu des projets en tant que monteur, mais j'étais jamais nourri à 100% parce que j'étais juste frustré, en fait. Je voyais des gens qui faisaient des films, alors que moi, j'étais juste en train de monter, tu vois.
Ouais.
Et la première ou la deuxième année, j'ai pété mon PEL pour pouvoir payer mon loyer. Ensuite, j'ai fait un emprunt à la banque pour pouvoir payer mon loyer. Et là, est venu le spectacle. On a eu des subventions du CNC quand même, les deux pendant 2 ans, qui pouvaient nous permettre de payer une petite partie de notre loyer, tu vois. Et le spectacle, en fait, ça a tout changé parce que répétition payée, cachet d'intermittent, statut d'intermittent pendant 1 an, Covid, confinement, donc report de l'année.
Ouais.
Tu vois, entre guillemets, coup de bol parce que bon, je pense que j'aurai mon année l'année d'après, tu vois, mais Mais ça s'est bien goupillé, entre guillemets, okay. Tu vois. Et voilà, puis spectacle, et puis bah, là, on arrête la série.
Tu continues le spectacle?
Ouais, le spectacle continue. Ouais. Bah, ça reprend doucement, la tournée reprend doucement. On a vraiment été coupé en plein milieu, quoi. Ça, c'est.
Ouais.
On commençait à faire des grosses salles, on était complet tout le temps, c'était que des bonnes critiques, tout ça, et là, bim. Donc là, ça reprend doucement, c'est cool.
T'as pas été le seul. Hein.
Ouais, ouais, je sais, non, mais c'est compliqué.
Ça va, c'était hein. compliqué.
Ouais.
En tout cas, ça revient. Ça reprend.
Mais toi, il y a des. Quand je joue, c'est complet. Et il y a certaines dates qui sont annulées parce que pas assez de billets vendus. C'est un peu l'un ou l'autre. Alors, Bruxelles, je suis très déçu.
Écoutez, Bruxelles.
Bruxelles, voilà. C'est reporté, c'est en avril. Mais venez, Bruxelles. Parce qu'ils râlent en plus, les gens. Tu vois, ils disent, ouais, vous venez pas. Bah oui, mais moi, je viens, mais vous vous achetez pas les billets. Et donc là, on arrête. Et le gros projet, donc il y a le spectacle qui continue. Et le gros projet, c'est le long métrage. Parce qu'on a écrit, on a profité de ce confinement. Enfin, ça fait 3 ans qu'on est dessus, mais là, on a vraiment profité du confinement pour écrire le scénario du long métrage et tout le monde s'en fout. Donc on a vraiment épuisé ce projet jusqu'à la moelle. On a fait 2 livres, un jeu de société, un spectacle, un long métrage.
C'est hyper intéressant, n'empêche, de voir à quel point vous avez réussi à transformer en fait, le projet en différents supports, quoi.
Bah, c'est merci la dramaturgie, hein. C'est vraiment la clé de tout, c'est que la dramaturgie...
Explique pourquoi.
Bah, en gros, la dramaturgie, donc, c'est les outils pour écrire une histoire, et en fait, ça te montre que tu peux, avec les bons outils, écrire à partir de tout. Tu peux écrire une histoire entre une chaise et une chaussure, tant que t'appliques la dramaturgie. Et en fait, la dramaturgie, c'est quoi? C'est de la psychologie, en fait. C'est des mécanismes psychologiques mis dans un certain ordre, pour être un peu trivial, tu vois. Et donc, quand tu crées un personnage, bah, tu sais que t'as tel et tel point clé à déterminer. Et ensuite, et alors, ça a l'air, tu te dis, ouais, d'accord, mais du coup, la part artistique, elle est où là-dedans? Bah, justement, le talent, c'est de faire tout ça de manière subtile et de manière créative, tu vois. Donc,
en gros, ce qui est terrible, c'est qu'une fois que, enfin, j'avais fait un stage de dramaturgie et c'était fou parce que une fois que t'as compris comment ça marche, tu te rends compte qu'effectivement, toutes les histoires se ressemblent depuis des millénaires.
On raconte les mêmes histoires.
Toutes les mêmes. Mais après, ce qui change, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais globalement, les différents.
La colonne vertébrale, en tout cas. En fait, une histoire, c'est quoi? C'est l'évolution d'un personnage principal. Ce n'est que ça. C'est en fait, tu racontes comment un personnage part d'un point A et arrive à un point B. C'est que ça. N'importe toutes les histoires racontent ça. Après, t'as différentes manières d'arriver au point A, au point B, et t'as aussi la différence entre l'histoire et le récit. Parce que t'as une histoire, mais tu peux la raconter de plein de manières différentes. Le fond, la forme. Enfin, tu vois, c'est et donc ouais, donc on a réussi à développer ce projet sous toutes ces formes-là grâce à ça, quoi, en fait.
Hyper intéressant. Parce que de ce fait-là, vous vous êtes dit, ok, donc on a ce projet-là, enfin on a ce projet-là avec cette histoire-là, et en fait on va venir raconter à chaque fois différents récits, c'est ça, en fonction des...
Il y a aussi de manière un peu pragmatique, on a eu du succès grâce à ça, donc les gens viennent nous voir pour ça aussi, donc il faut être intelligent, et si on veut continuer de faire des choses, si ça tenait qu'à nous, on ferait complètement autre chose, mais ça reste... L'audiovisuel, c'est aussi un business, et donc il faut faire les choses intelligemment. Donc, moi je suis très content d'avoir écrit ce long métrage, tout le monde s'en fout. J'espère qu'on va le faire, je pense qu'on va le faire. En tout cas, on n'a jamais eu autant de chances de faire un long métrage que maintenant avec
ça.
Vous
n'êtes jamais aussi prêt.
C'est ça. Est-ce que j'aurais pensé que mon premier long métrage serait un truc tiré des tout le monde s'en fout? Non, mais on a réussi à en faire quelque chose de cool. J'en suis fier en tout cas du scénar. C'est pas fini là, on a vraiment la première version du scénar enfin terminée. Donc c'est un road movie.
Ok.
C'est une comédie, un road movie humoristique qui parle de Lexa, donc notre personnage, qui doit traverser la France en camionnette avec une petite fille.
Intéressant.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans cette interview, dans cette discussion?
Qu'est-ce que je t'ai dit un truc tout à l'heure? Ouais, sympa, on pourra y revenir quand on a commencé nos digressions. Je ne sais plus.
Je vois très bien ce que tu m'as. Enfin, je vois que tu me l'as dit, mais alors. Je ne sais plus.
On parlait peut-être de masculinité toxique, je ne sais plus.
C'est ton sujet.
Ouais. Ouais, vraiment, vraiment.
En fait, tu sais, j'en ai marre qu'on parle de masculinité toxique. J'en ai marre qu'on mette à côté à chaque fois masculinité toxique. Et en fait, j'ai un peu ce truc où. J'ai l'impression que la plupart des mecs c'est un peu un cheminement que je suis en train de faire, tu vois, mais la plupart des mecs aujourd'hui qui veulent être des mecs bien, tu vois, ils font en sorte de se départir de ça et de le rejeter. Alors qu'en fait, pour moi, il faut aussi accepter tes parts de masculinité qui sont en toi. Et en fait, plutôt que de les rejeter, aller regarder à l'intérieur, et puis limite, les embrasser, en fait, tu vois, et te dire, ok, bah, qu'est-ce que je fais pour... C'est quoi les trucs que je fais au nom de j'ai pas envie d'être d'être un mec toxique et c'est quoi les trucs que j'ai vraiment envie de faire et qui à un moment donné qui me compose aussi quoi tu vois essayer de pas rejeter ça à tout prix quoi tu vois
mais toxique c'est en fait c'est toxique à partir du moment où ça te fait souffrir et où ça fait souffrir les autres parce que bon, le problème de encore une fois la masculinité toxique c'est alors je sais pas quelle est la part de quel est le plus important est-ce que ça fait souffrir les autres ou ça te fait souffrir toi parce que le patriarcat ça, faut comprendre que ça fait pas chier que les femmes ça fait chier les hommes aussi
bien sûr
parce que le c'est les injonctions toujours le pareil les injonctions à la performance à la force à cacher ses émotions c'est ça qui est toxique c'est pas t'as le droit de en fait ça c'est un sujet qui me passionne c'est sur le masculin et le féminin il y a un truc. Alors, c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, mais t'as ce qu'on appelle les valeurs et t'as ce qu'on appelle les valences, qu'on retrouve dans ambivalence, tu vois. Et en gros, c'est ce qui s'est passé par rapport aux valeurs, ce qu'on dit les valeurs masculines et féminines, c'est que la société patriarcale a fait que les hommes ont choisi les valeurs qu'ils voulaient, la force, l'agressivité, tout ça, machin. On dit ça, c'est le masculin. Et du coup, ce qui est devenu le féminin, c'est ce que les hommes ne voulaient pas.
Ah, moi j'avais lu un article à propos de Françoise L'Héritier qui dit en gros quand les mecs se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas donner la vie et qu'en gros c'était les femmes qui pouvaient donner la vie et donc donner naissance à leurs héritiers, enfin tu vois, parce que tout ce truc là, tu vois, et en fait de te rendre compte, alors t'es pas papa, mais moi j'ai eu ce chemin personnel, très profond, très ancré en moi, vraiment limite, tu sentais que c'était dans mon ADN pendant une grosse partie de la grossesse de ma femme, la première grossesse, où je me suis dit, mais je ne ferai jamais ça. C'est-à-dire que vraiment, j'ai ce truc où, en tant qu'être humain, je n'arriverai jamais à être aussi complet qu'elle.
Ouais.
Et en fait, vraiment, je me suis dit, c'est pas impossible que, à un moment donné, les mecs qui se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, peut-être on va leur cogner dessus, en fait, tu vois. Non, mais pour bien les remettre à leur place, quoi, grave. Tu vois, parce que finalement, c'est ça, on sait faire.
Elles détiennent le pouvoir, en fait.
Mais bien sûr, quand tu réfléchis un peu. Et en fait, des années plus tard, je racontais ça à une amie qui m'a envoyé cet article-là à propos des recherches de Françoise L'Héritier. Je me suis dit, oh, bah, j'étais pas complètement à côté de la plaque.
Ouais.
Et de ce fait-là, les mecs se sont dit, OK, donc vous allez juste vous occuper de ça. Et nous, on va s'occuper de tout ce qui compte dans la société, c'est-à-dire l'économie, le pouvoir, et puis éventuellement la guerre. Et puis, en fait, si vous nous faites chier, on va vous cogner dessus en passant, quoi. Voilà.
Mais c'est super intéressant. C'est ce que dit Mona Chollet dans son bouquin, là. Elle émet des hypothèses, hein, elle dit pas que c'est comme ça, mais donc elle parle de, donc dans Réinventer l'amour, où elle parle de comment le patriarcat a défoncé les relations hétéro. Elle dit il y a un problème, c'est qu'il y a la sexualisation de la soumission de la femme, l'érotisation plus que la sexualisation, tu vois, et donc le fantasme, etc., etc., du mal protecteur, et bah, toute la culture du viol qui en découle, etc.
Le fantasme du viol aussi, j'ai plein de meufs qui ont du mal aussi à faire ressortir, c'est important qu'elles regardent ça en elles aussi de leur côté, quoi.
Et du coup, elle va jusqu'à dire que peut-être que les... Parce qu'il y a un argument qui est, oui, mais les hommes ont une masse musculaire plus importante, donc c'est normal qu'ils portent des bûches et pas les femmes.
Normal.
Et elle va jusqu'à dire qu'en fait, peut-être que cette différence physique, elle découle de cette érotisation de la soumission. Elle va jusque-là. Encore une fois, elle dit pas que c'est, mais elle questionne ça et ça m'étonnerait pas, en fait.
Bah moi j'avais lu un truc où les meufs sont sous-nutritionnées depuis des millénaires, depuis l'homme préhistorique,
complètement.
Où en fait on donnait plutôt au bonhomme. Mais après si tu réfléchis un petit peu, comme c'était eux qui allaient chasser, si tu veux, il y avait un peu ce truc de on a besoin de force, tu vois. Donc je sais pas trop comment ça se jouait. Et puis moi j'ai découvert un truc aussi, c'est que j'ai pendant la première grossesse de ma femme, j'ai pris 10 kilos en l'espace de 3 mois. Et je comprenais pas d'où ça venait, en fait. Vraiment, ça me fascinait de me dire, OK, comment ça se fait que j'ai aussi faim? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai découvert des années plus tard que les chimpanzés font ça, c'est-à-dire que pendant les premiers mois, les chimpanzés font des couvades. En fait, pendant les premiers mois de la grossesse de la gestation, ils prennent du muscle pour pouvoir porter les petits.
Ah.
Donc en fait, on est juste des singes.
Ah bah oui, ça de toute façon.
De là.
Mais il n'y a pas un truc il n'y a pas longtemps qui est sorti, comme quoi les squelettes qu'ils avaient retrouvés des hommes préhistoriques, en fait, il y en avait, c'était des femmes. Et ils pensaient que c'était des hommes parce qu'ils étaient parce qu'il y avait une masse.
Ah, okay.
Il me semble que j'ai vu ça. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait espèce de descendance de merde et qu'on ait et qu'on soit des que le monde soit sexiste depuis très longtemps.
C'est pas impossible.
Ouais, c'est pas impossible.
En tout cas, merci beaucoup. Et faudrait qu'on fasse un épisode d'histoire de mecs là, parce que tu sais, on est parti. J'ai un podcast où je fais parler des mecs de masculinité.
Ça m'intéresse de ouf.
On fera ça un de ces quatre.
Ouais,
si tu le souhaites. Puis pour tous les gens qui écoutent Histoire de succès, si vous savez pas, j'ai cet épisode d'histoire de mecs. Enfin, ces épisodes d'histoire de mecs où je fais parler des mecs de masculinité, c'est fascinant à chaque fois. Tu connais pas?
Non, pas.
Faudra que t'ailles voir. Hein, vraiment,
mais
c'est.
Tu sais que je. C'est fait, c'est... Pas, moi, j'écoute pas de podcast. Je regarde pas de vidéos YouTube. Je sais même pas le dire.
T'imagines? Tu regardes pas de vidéos YouTube, ouais.
Mais non, mais je suis pas un consommateur, mais pas ouais. Au sens je suis plutôt un créateur, ouais. j'ai besoin de faire.
Enfin, tu regardes bien des trucs pour te nourrir.
Oui, pas assez. Okay. Je passe à côté de plein de trucs.
Okay.
Et quand je les découvre, je fais oh mon Dieu, c'est trop bien. Puis après je suis un peu frustré de ça. Faut me forcer. Tu m'envoies des mails et tu m'obliges à les écouter.
Merci beaucoup Axel. En tout cas, c'était cool.
Grand plaisir.
Je mettrai tous les liens dans les notes parce que tu sais, sur les podcasts, il y a ça. Tu peux mettre des liens
sur
dans les notes.
Sur les podcasts, il y a ça.
Sur les podcasts.
Incroyable.
Ma deuxième fille, quand elle était petite, elle savait pas dire. C'est quoi déjà que tu fais des podcasts?
Des podcasts.
C'est très dur à dire. Il y a plein de gens qui savent, même les adultes qui savent pas
c'est
dire.
C'est pour ça que j'en écoute pas.
Ouais, t'as bien raison. Un grand merci à toi.
À plus.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.